Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 janvier 2006 de 18 à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Ça va-t-il ? Vous croyez qu'on résiste ?
On résiste à la grippe pour l'instant, ou à la grippe arrière, à la grippe aviaire. La grippe arrière, c'est autre chose. C'est
ou aux mauvaises fréquentations.
Voilà, bref, on passe.
La grippe arrière, c'est une maladie qu'on attrape à la mairie de Paris.
C'est ça. Oui, donc vous voulez pas dire bonsoir à nos auditeurs ?
Si, parce que
Jacques rentre et ça vous impressionne.
Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs.
Voilà. Monsieur, bon alors, hey, ça roupille là.
Ça roupille. Vous parlez de grippe aviaire, vous croyez que c'est très hygiénique de nous donner un crachoir pour deux, le marquis et moi ? Je nous présente parce que vous oubliez toujours. En face de vous, dans le sens des aiguilles, une montre, le marquis de Olmeta et votre serviteur Patrick Goffman, un crachoir pour deux, les brimades s'amplifient.
Mais on peut c'est toujours le tourner, cassé, le micro.
Je pense que Johnny Hallyday a dû passer à l'émission, il a cassé.
Voilà. C'était M. Griotteret qui avait ce micro l'autre soir.
Oui, quand je prends le micro, M. Griotteret.
Et il souffrait.
Alors, parmi les invités ce soir, M. le docteur Oudret. Que nous avons déjà reçu, bonsoir docteur, qui vient nous présenter un petit bouquin très utile. Alors je vous demande, je vous prenez papier crayon, tout ça comme dirait Goffman, sauf qu'on a noté le titre et l'endroit où vous pouvez vous le procurer, mais il est très très utile ce bouquin. C'est un livre qui dévoile des secrets extrêmement intéressants. Les autres invités, Michel Delière qui viendra expliquer le succès en 10 minutes, le succès formidable de son initiative, car il reçoit des sacs de courrier.
La néo-tradition, je crois.
Paysan des néo-traditions. Messieurs Carme et Touris, les deux syndicalistes policiers, c'est les deux flics que j'aime et les deux syndicalistes que j'aime. Je hais la plupart des syndicalistes, évidemment. Merci. Et la quasi. Oui, faut pas avoir syndicaliste, vous faites rigoler. Le syndicat des courses hippiques, c'est pas un syndicat sérieux.
Et la CGC, alors. Les brimades continuent. Oui. Il nous prive de micro, il nous diffame. La CGC, c'est rien? Le marquis a vice-présidé la CGC. Il est trop modeste pour le dire, donc je dis à ça.
Je retire tout ce que j'ai dit. Alors, j'aime bien les syndicalistes et tout. J'aime bien les policiers.
Et la classe ouvrière, est-ce que tu l'aimes ?
Oui, je l'adore, mais j'aime tout le monde. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça, parce qu'on va avoir un procès. Vous avez vu ce qui est arrivé à monsieur, comment il s'appelle cet homme-là ? J'avais noté son nom dans mes papelards. Mais, monsieur, si, mais Van Est. Il a été condamné pour injure homophobe par le tribunal correctionnel de Lille, un jugement qui sanctionne l'opinion sur l'homosexualité de la frange conservatrice et traditionnelle de la société française.
Mais ça ne veut rien dire.
Non, ça ne veut rien dire, mais ça sanctionne une opinion, il faut le savoir. On va en reparler. Ouais. Et puis, alors, le premier invité, le professeur Joyeux. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Alors, je vais chausser un casque parce que... Enfin, chausser, c'est comme ça qu'on dit.
Non,
c'est pas comme ça qu'on dit. Je vais coiffer un casque.
Voilà.
Comment allez-vous, professeur Joyeux ?
Très bien, je vous remercie beaucoup.
Je vous ai prié de venir nous dire ce soir très rapidement. On vous recevra plus longuement pour parler de votre métier, de votre travail, et des découvertes et des travaux que vous avez faits, mais sur notamment l'alimentation saine. Mais ce soir, je vous demande de nous dire exactement ce qui se prépare dans l'association dont vous êtes le président et qui s'appelle Famille de France.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, ce vendredi a lieu une grande journée qui s'appelle les États généraux de Famille de France. C'est le premier rendez-vous de janvier de Famille de France que nous faisons cette fois-ci dans un lieu original. C'est toute l'enceinte du cirque Grusse. Alors, pendant toute la journée, nous allons travailler avec des experts qui sont des partenaires des associations familiales, qui soient des, je dirais, gens qui s'occupent de la famille au niveau des CAF, des CNAF, de la CNAF ou au niveau de caisses d'allocation familiale, si vous voulez, d'une façon générale, ou bien des conseils généraux de ce qu'on appelle les territoires, les mairies, les municipalités, ainsi que les responsables familiaux des associations qui ne sont pas de Famille de France. Donc nous ouvrons vers d'autres associations que les nôtres et vers d'autres mouvements comme Famille Rurale par exemple. Et nous allons décerner des trophées. 7 trophées qui vont être décernés à tous les micro-projets des associations familiales qui ont lieu donc sur le terrain dans les 90 départements où nous sommes de métropole et d'outre-mer. Alors ce qui est important à retenir pour vos auditeurs, c'est que le soir, il y a une grande soirée festive pour les familles, pour les enfants, pour les grands-parents, pour tout le monde. Alors là, dans le cirque Grusse lui-même, où nous avons un spectacle qui sera le spectacle familial pour Famille de France, spécifiquement pour Famille de France, du cirque Grusse et de la famille Grusse qui nous donne donc ce spectacle. Alors, il y a encore des places disponibles. Sur les 3000 places, il doit en rester à peu près 500 ou 600 qui sont libres. Donc, je dis à tous les parents qui veulent venir, d'abord, c'est pas cher puisque c'est une place à 5€ pour les enfants au-delà de 4 ans, 4 gratuits pour les enfants avant 4 ans, et puis 10€ pour la place de l'adulte, si vous voulez. Voilà.
Et donc, c'est pour le spectacle du cirque Grusse, c'est vraiment pas cher.
Voilà. Et ça se passera au cirque Grusse, donc ce vendredi 27 janvier, à partir de 20h. Et il y a un mot de passe qui est très simple, c'est Famille de France. Il suffit d'arriver en disant, voilà, on est Famille de France, et puis il n'y a aucun problème, les gens trouveront évidemment les billets en vente, comme je le dis, à 5€ pour les enfants, gratuits pour moins de 4 ans, 10€ pour les adultes, et ça se passe entre 20h et 22h30 maximum. Et donc les enfants pourront être à l'école le lendemain.
Je vous remercie, professeur, d'avoir pris sur votre temps pour annoncer ça sur notre bonne radio.
Avec grand plaisir.
Vendredi 27, donc après-demain, à 20h30.
20h.
À 20h, pardon.
Cirque Grusse, à côté du Bois de Boulogne,
voilà. Dans le 16e. Grand spectacle présenté par Alexis Grusse pour les familles de France, avec au tarif assez incroyable de 5€ pour les enfants. Vous paierez, vous, 5€, Marquis ? Vous n'êtes qu'un enfant, c'est un enfant ce garçon, il est tellement gentil, il est petit,
vous n'êtes pas petit. Merci petit, en tout cas de votre accueil sur votre antenne, merci beaucoup.
Merci, au revoir professeur.
Au revoir.
Les enfants de moins de 4 ans, c'est gratuit.
Ah ben alors j'y vais.
Voilà, c'est bien, vous pouvez emmener toute votre nombreuse petite famille.
C'est
Victoria,
où
commentaire. C'est au Bois de Boulogne, le cirque Grusse.
Quelle bête.
Bon.
C'est vaste le Bois de Boulogne, je vous signale.
Ah bon ?
Les auditeurs, ils trouvent que...
Oh, mais tout le monde sait où le cirque Grusse.
Sauf moi,
écoutez,
qui suis la voix des auditeurs.
Vous appelez 01 44 53 17 50, on vous en fera la confidence.
01 44, après
53,
oui.
17 50.
Très bien.
Voilà, c'est bien Famille de France.
Oui, c'est bien.
C'est une belle association. Voilà. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Bon, on va maintenant qu'on a dit des choses gaies, on va parler de choses tristes. C'est une journée bizarre aujourd'hui parce qu'il y a deux procès qui ont commencé. D'une part, le procès de deux procès à peu près semblables, le procès du meurtrier de l'île de Ré. Alors il faut dire, les radios disent meurtrier présumé, alors que la loi nous dit c'est l'innocence qui est présumée. Il est présumé innocent, il n'est pas présumé meurtrier. Il faudrait quand même apprendre à lire les textes légaux, mais bande de journalistes.
Et de plus, il a avoué, donc...
Ah oui, mais nous n'avons pas la religion des aveux.
Voilà, c'est vrai. Vous vous souvenez de Paulin, le tueur de vieilles dames.
Oui, il avait gagné beaucoup d'argent avec
voilà,
ça.
Voilà, sa mère gagne encore de l'argent. Ah, si bon, demain on parle de Paulin et qu'on rappelle cette histoire dans le 18e, ouais, qu'on se trompe sur le nombre des victimes, si je ne suis pour rien, si on dit 15 alors qu'il n'y en a eu que 14 officiels, la mère fait un procès. Et puis si on dit l'assassin des vieilles dames du 18e, on va le rendre au procès.
Bah, évidemment, c'est
parce
pas
que comme il est mort avant, il est présumé.
Et si on dit qu'ils sont black, ces gens-là, on a un procès? Alors je ne l'ai pas dit.
Black dans le coin? Non, non, mais ça n'a rien à voir. Il y a un autre procès qui est le procès de Denis Besson, 22 ans, accusé d'enlèvement, séquestration et viol. Alors lui, c'est un gentil garçon parce qu'il n'a pas tué la petite fille. Il s'est contenté de l'ensevelir sous un tas de branchages au milieu de la forêt en disant que personne ne la retrouverait. Manque de chance, les gendarmes l'ont retrouvé.
C'est très écologique tout ça.
Et alors, tout à fait dans le même sens, enfin dans la même direction, et là je sais que je vais faire beaucoup de peine à mon excellent camarade le marquis Jean-Paul Chirigues de Olmeta, mais tant pis. 10 détenus de la prison de Clairvaux, qui sont peut-être moins bêtes que les autres, demandent le rétablissement effectif de la peine de mort pour eux-mêmes, disent-ils. Dès lors qu'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle sans aucune perspective effective de libération, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes, écrivent-ils dans une déclaration à l'AFP.
Ils n'ont pas de rasoir, apparemment.
Non, apparemment, ils n'ont pas de rasoir, ils n'ont pas de fenêtre, ils n'ont pas d'escalier, ils n'ont pas tous les trucs utiles.
Cela dit, sans vouloir plomber les choses, ça donne effectivement à réfléchir.
Eh ben voilà. Oui. Alors, ils s'appellent ces gens-là Abdelhamid Akar, qui est assassin de policier, André Généra, Bernard Lasselin, Patrick Pérochon, Milivoj Milno... Là, je peux plus. Là, je suis désolé, je suis largué. Miloslavevitch, Daniel Aerts, Farid Tahir, qui est l'assassin de deux femmes, Christian Rivière, Jean-Marie Dubois et Tadeusz Tutkaj. Donc, on pourrait faire à la fois un peu de place.
Oui, un orchestre ou une équipe de foot.
Oui, ça ressemble un peu à une équipe de foot, c'est vrai. Donc, on pourrait faire une économie de place. Puis plein d'économies. Donc il faut absolument leur donner de toute urgence satisfaction, ne serait-ce que pour libérer, comme ils sont 10, on pourrait libérer 10 cellules, ce qui permettrait de loger quelques-uns des sans-abri qui sont en train de mourir de froid, parce qu'on a de la place pour les taulards, mais on n'a pas de place pour les gens qui n'ont rien fait et qui se contentent de ne pas avoir de fric. Il y en a un qui est mort. Alors lui, peine de mort appliquée sans appel. Hein, à Joinville-le-Pont, sur les quais de la Marne. Il faut dire que par un froid pareil, aller se réfugier sur les quais de la Marne, c'est bizarre comme idée, je trouve. Non ? Vous trouvez ça bien ?
Ben, je pense qu'on peut faire sur les quais de la Marne, oui.
Voilà, c'est ça.
Mais si bien sous les ponts de la Seine.
C'est pareil. En revanche, alors on nous explique qu'on n'a pas d'argent pour les aider, ou pour les loger, ou pour assurer. Bon, en revanche, on a de l'argent à donner aux Anglais, puisque vous avez vu qu'on va donner 150 millions d'euros aux Anglais pour les plans de leur porte-avions. Alors nos espions, qu'est-ce qu'ils foutent? Hein, combien on dépense pour payer des espions en France? Vous allez voir la piscine boulevard Mortier. C'est Mortier, c'est ça?
C'est Mortier, oui.
Il y a rien qu'en terrain, rien qu'en immobilier, il y a de quoi faire la fortune de Chirac pour 2 siècles, hein, en pot de vin. Eh bien, non, on laisse ces mecs s'installer là-dedans. Ils ne foutent absolument rien de la journée. La preuve, c'est qu'on est obligé d'acheter les plans.
Mais Serge, vous croyez qu'il faut faire à nouveau confiance aux espions qui nous ont rapporté les plans du porte-avions Charles de Gaulle?
Oui, c'est vrai, vous avez raison de faire cette remarque, effectivement. Bon, c'est une très mauvaise idée. On a raison de les acheter, les plans. Je pense que les Anglais vont nous foutre 2-3 trucs bidons là-dedans et il va couler comme le Charles de Gaulle, ou il va être plein de saleté comme le Clémenceau.
Nous avons une marine très coulante.
Non, pour être sérieux une seconde, on n'aura pas les plans complets. C'est comme quand on achète des avions aux Américains, on a les versions anciennes, les non mises à jour de tel ou tel système d'armes ou de tel ou tel système de pilotage. Ça, il faut le savoir. Et puis c'est gradué selon qu'on est un pays émergent ou qu'on est la France. Et la France, évidemment, elle est saquée.
Normal. Alors, les Français s'inquiètent pas d'être saqués, mais à cause des retraites. Ils pensent qu'ils vont pas toucher leur retraite. Ils sont malheureux. Alors, je suis tombé dans un journal algérien sur un texte qui va rassurer les Français, parce que si eux, ils ont risque de pas pouvoir vivre de leur retraite, il y en a d'autres qui sont... écoutez ça. Comme chaque hiver, Saïd préfère venir passer quelques mois dans son village natal près d'Oran. Ce retraité d'une entreprise française de bâtiments retrouve sa deuxième famille en Algérie avant de retourner dans son quartier des Lilas, dans la banlieue parisienne, pour y passer 2 ou 3 mois. Là-bas, il retrouve sa deuxième femme. Depuis sa sortie en retraite, il y a 5 ans, Saïd, 65 ans, vit entre l'Algérie et la France comme de nombreux émigrés retraités. L'hiver est très difficile en France. Il fait très froid. Et lorsque vous ne travaillez pas, les journées sont longues et ennuyeuses. Ici, on s'occupe, on rencontre des gens, des amis d'enfance. Je repars en France dans 2 mois vers le printemps. Je vais y passer quelques semaines, ça dépend. Je vais ramener un peu d'argent, voir mon médecin. Dans son petit village, il partage les journées entre le café, le marché et le bricolage. Dans sa nouvelle maison qu'il est en train de construire grâce à l'argent de sa retraite, durant son séjour au pays, Saïd peut également s'occuper à plein temps de l'éducation de ses 5 enfants qu'il n'a pas vu grandir. Son fils aîné a déjà presque 20 ans. Le climat clément n'est pas le seul facteur qui pousse les émigrés à passer beaucoup plus de temps en Algérie qu'en France. Le coût de la vie y est pour beaucoup. Un retraité qui touche 1000 euros par mois peut vivre tranquillement en Algérie. Il peut investir et faire des projets. En France, cette somme lui suffira juste pour se nourrir. Chez nous, le coût de la vie est moins cher qu'à Paris, explique un économiste. Il y a besoin d'un économiste pour expliquer ça. Mais tous les immigrés retraités n'ont pas la possibilité et les moyens de faire régulièrement la navette entre la France et leur pays d'origine. Certains n'ont pas de famille en Algérie. Les retraités ne sont pas les seuls qui vivent entre la France et l'Algérie. Pour ces gens, le phénomène n'est pas nouveau. Et il a pris de l'ampleur ces dernières années avec le retour de la sécurité en Algérie, la hausse de l'euro par rapport au dinar et les difficultés de la vie sociale en France. La vie dans les cités des banlieues françaises devient de plus en plus difficile, comme en témoignent les dernières émeutes qui ont secoué la banlieue parisienne.
À cause des Arabes.
Non mais c'est fabuleux quand même, on croit rêver.
Je suis en train de rêver.
Une autre catégorie
d'immigration à l'envers pour moi.
Une autre catégorie d'émigrés vit aussi entre l'Algérie et la France, notamment ceux qui ont obtenu ou récupéré récemment la nationalité française grâce à leurs parents ou à leurs grands-parents. Un pied ici, un pied noir bien entendu, un autre là-bas. Pour Sam, il y a 30 ans, c'est tout un rêve qui se concrétise. Depuis 3 ans, cette Oranaise fait le va-et-vient entre sa ville natale et Paris, où sont installés ses grands-parents. Il y a une année, enceinte, Samia avait pris l'avion pour Paris pour y accoucher et donner à sa fille la nationalité française. Je me déplace 3-4 fois par an à Paris. Parfois, je reste 2-3 mois. J'ai mes grands-parents qui habitent un grand appartement à Paris. Dans ce quartier, tout le monde connaît l'histoire de cette femme. J'ai souffert avant d'obtenir ce statut. Je suis resté en France pendant 2 ans avant d'obtenir la nationalité française. Voilà. Maintenant, j'ai droit à tous les avantages sociaux qu'ont les Français.
Ah, bon.
Ouf. Ajoute Samia qui n'a pas l'intention de s'installer définitivement en France.
Oui, oh, non.
Du moins pour le moment.
Ah. Oui, mais tant que ça fonctionne.
Payer des impôts.
Ce n'est pas le cas de Fatima, 60 ans, qui réside à Paris depuis
Fatima
une Pinjou. Année.
Hein? Fatima Pinjou, elle est double foyer.
Sim Camille Pigeot.
Cette femme qui habitait dans un quartier populaire à Oran avait obtenu la nationalité française il y a une année grâce à son mari. Vous avez bien entendu, hein. Cette femme qui habitait dans un quartier populaire à Oran avait obtenu la nationalité française il y a une année grâce à son mari. Elle vient d'envoyer une belle voiture à son fils qui a entamé des démarches pour obtenir par filiation la nationalité française. Moi, je ne sais pas comment ils font pour acheter une bagnole en un an. Je sais pas, il faudra qu'il me donne le truc quand même. D'autres immigrés, de plus en plus nombreux, profitent des fêtes religieuses comme l'Aïd, des vacances scolaires et l'été pour venir passer en famille quelques jours ou quelques semaines dans leur pays d'origine. Samedi, le bateau Al-Jazair a quitté le port d'Oran à destination de Marseille avec près de 1000 voyageurs à bord et plus de 290 véhicules.
Ceux-là qui brûleront pas.
Notice école ornithologique qui n'a rien à voir. Ça, c'est pas dans le livre, c'est pas dans le journal, ça n'a rien à voir. C'est au passage, parce que je trouve cette émission, qui ne manque pas d'intérêt, attendez la qualité de certains de ses participants, nonobstant, l'aspect scientifique me paraît un peu négligé. Donc,
c'est vrai.
Maintenant, je vais faire de temps en temps des petites notices. Et ce soir, j'inaugure avec une notice ornithologique. Le coucouchet est un migrateur total qui hiverne au sud du Sahara. Il peut rester de longues heures aux aguets, adoptant une stature immobile, vigilant, épiant les moindres mouvements des pies du voisinage. Dès que celles-ci commencent la construction de leur nid, les coucougets se préparent à les parasiter. La femelle pond dans le nid de parents adoptifs, auxquels incombe alors la tâche d'élever le jeune coucou. Voilà, c'est la fin de notre notice ornithologique du jour. Voilà.
Coucou,
coucou. Cocu, cocu. Qu'est-ce que... Pas de publicité politique, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui nous écrit. Ce Vanest est un... Alors là, c'est un mot que j'arrive pas à lire. Ça s'écrit C-R-E-T-I-N, mais je comprends pas bien. Car traiter les homos d'inférieurs, c'était sûr qu'il allait être condamné. Dire que les homos sont inférieurs, c'est une C-O-2-N-E-R-I-E, je trouve. Et c'est d'autant plus grave que ce M est député. Si les homos existent, c'est que Dieu l'a voulu. Poil au nez.
C'est un message d'auditeur. Serge, est-ce que je peux faire écho?
Oui.
à ce, non, ce qui est à marrant, ce message, c'est
que, oui.
En vous rapportant la réaction très intéressante de Michel Charras, qui était reçu chez la Folle du Roi ce matin. Naturellement, il commence, bon, il est obligé par contrat, par dire, ah, moi je peux pas saquer les curés, et puis ceux qui vont vous écrire pour protester, c'est les trous du cul coincés. Ça doit faire mal. Bon, et puis bon, je suis prêt à tourner le bouton. Et puis vient la question de la condamnation de Van Est. Et là, le ton change. Alors évidemment, entre-temps, Charras, il se rend pas compte qu'il est lui-même le curé de Dieu, entre guillemets, à savoir Mitterrand, dont il nous rapporte évidemment les déclarations les plus prud'homesques et les plus grotesques comme autant de paroles d'évangile. Mais après, il y a une troisième phase, quand on parle de Van Est et de sa condamnation pour homophobie, où il change complètement de ton. Pour dire cette loi contre la discrimination et la création de la halle a été votée, je le cite, il est un peu grossier, mais je le cite quand même textuellement, a été votée pour plaire, pour faire plaisir, pour satisfaire un certain nombre de groupuscules de qui nous en tous les jours. Alors c'est quand même intéressant parce que ça veut dire, non pas tellement du point de vue de Charras qui est, je le rappelle, sénateur socialiste du Puy-de-Dôme, non pas tellement du point de vue de l'état du Parti Socialiste, mais de l'état des gens qui sur ordre de Chirac, directement, ont voté cette loi. On a un gouvernement de droite qui vote des lois tellement gauchistes qu'elles incommodent les sénateurs socialistes.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si ACTUB va poursuivre Charras.
Oui, bien sûr.
Homophobe. Alors, il y a une question pour vous. Le comte Goffman pourrait-il nous préciser ce que le marquis d'Olmeta a dans le sens des aiguilles d'une montre?
Comment est-ce qu'on écrit le comte Goffman?
Non, le comte.
Ah bon?
Moi, j'ai pas compris Goffman, comme
vous l'avez
dit.
Oui, bien sûr. Toujours aimable.
Serge, j'ai aussi une question. Que pensez-vous de cette rumeur qui prédit que Paris serait la cible d'un attentat nucléaire dans les 6 mois? Apparemment, vous n'en pensez pas grand-chose.
Absolument rien.
Alors, c'est Chirac qui l'a annoncé, il me semble. Hein. Il a dit qu'il fallait vitrifier Paris s'il n'était pas au deuxième tour.
C'est mon excellent camarade Aramis qui a résumé ça dans un très bon dessin. On voit Chirac qui se penche vers un général à 72 000 étoiles et qui lui dit « Bon, c'est bien compris, hein. Dès le lendemain du premier tour, vous vitrifiez Paris. » Voilà.
Il y a presque le même à la une du Canard enchaîné aujourd'hui. On le voit, c'est le nouveau dérapage verbal de Chirac à Brest, et on voit les officiers de marine qui disent « Espérons qu'il ne se trompera pas avec le code nucléaire.
» Alors, je vous signale que, mauvaise nouvelle, le virus chikungunya secoue la Réunion. Alors, c'est une information extrêmement intéressante parce que on ajoute que ce virus qui fait 2000 personnes, qui touche 2000 personnes par semaine, est parfaitement anodin et peu nocif. Donc voilà, je vous le signale quand même.
C'est vraiment intéressant.
Hein, on ne perd pas son temps à m'écouter, au moins. Mais n'empêche que la presse locale réclame des moyens financiers plus importants à la métropole, bien sûr.
Forcément.
Des messages électroniques anonymes ont été adressés à plusieurs quotidiens de métropole pour les alarmer sur la situation sanitaire de Lille.
Il s'appelle comment, le virus?
Chikungunya. C'est mignon.
C'est le nom d'une des meilleures travailleuses de la Madame Claude de la Réunion.
Ah, dis donc, vous êtes bien informé.
Ouais, c'est curieux qu'un virus porte ce nom-là.
Ouais.
C'est l'origine. Oui,
ça, parce que j'ai de la famille.
C'est la source.
Il a l'organigramme de toutes les boîtes.
Il est incroyable,
c'est hallucinant.
Incroyable. Vous souvenez que... Récemment, Sarkozy n'a pas pu aller à la Martinique parce que au Sénat,
il a eu dans le baba,
oui.
Au Rhum.
Au Sénat, Lucette Michaud-Chevry, sénateur de la Guadeloupe, le très mignon de la Lucette.
Oh, oui.
Ma sœur Lucette, elle est adorable.
N'allez pas dire ça à notre ami Philippe de Saint-Robert, parce qu'elle l'a quasiment expulsé de son siège de commissaire. Là, je l'ai interviewé à l'époque,
pas dans du tout,
à la langue française, parce que Chirac l'a nommé ensuite ministre de la francophonie, et elle était odieuse avec Philippe de Saint-Robert, que je salue puisqu'il nous écoute avec bienveillance comme tous les soirs.
Je salue Philippe de Saint-Robert et je retire immédiatement ma sympathie à Lucette. Écoutez ce qu'elle dit. Je ne pense pas que l'on puisse reprocher ici à nos populations de rejeter leurs frères, notamment haïtiens qui viennent chez nous chercher de la formation, des soins médicaux. C'est quand même incroyable. Et que nous avons toujours aidés. Mais aujourd'hui, force est de constater un dérapage qui n'est pas acceptable. Les habitations, les terres inexploitées sont envahies. Les Guadeloupéennes accouchent dans les couloirs des hôpitaux parce que les Haïtiennes et les Dominicaines ont pris leur place dans les chambres.
Elle est raciste.
J'oserais pas le dire. La violence s'est instaurée. La drogue est à la porte de nos collèges, on se croirait en France métropolitaine. Dans nos prisons, et c'est un avocat qui parle, dit-elle, il y a plus d'étrangers que de Guadeloupéens. À ce moment-là, il y a la communiste de service qui dit « c'est terrible de dire ça !» Elle s'appelle Assassi, la communauté de Syrie.
Mais qu'est-ce que se plaint ? La civilisation est arrivée jusqu'à eux, là, apparemment.
Oui, exactement. Moi, je trouve que d'avoir des Dominicaines qui accouchent, c'est quand même inquiétant.
Des Dominicaines qui accouchent.
Bon, enfin, ça fait partie de l'évolution générale des mœurs. Alors, elle continue. La drogue est à la porte de nos collèges, dans les prisons, etc. Sur le territoire français de la Guadeloupe, les transports organisés appartiennent à des Haïtiens. Il existe une banque haïtienne, et je ne parle pas de la Martinique, non plus que de la Guyane, où la situation est encore plus grave. Au moment où deux cyclones viennent une nouvelle fois de frapper Haïti, le pays le plus pauvre du monde, c'est à la Guadeloupe, avec Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Marie-Galante, les Saintes et la Désirade, que nous devons régler les problèmes insurmontables qui en découlent. Dire que la solution réside dans le développement des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'est méconnaître les efforts entrepris par la France dans cette zone. La France est le pays qui a injecté le plus d'argent dans la Caraïbe pour tenter d'apporter des réponses concrètes à l'intégration des étrangers. Mais nous continuons à avoir dans ce domaine une politique de générosité qui n'est plus tenable. Et il y a autre chose. Que... Si c'était pas Lucette qui disait ça, on irait en taule directement.
Exactement, mais c'est bien Lucette.
Mais il y a autre chose qui nous fait très mal, c'est la mauvaise intégration des Domiens. Les Domiens, c'est les gens des Dômes, vous avez compris.
Oui.
Les Domiens, c'est les gens des Tomes. Voilà. Les étudiants de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane se font traiter d'étrangers parce qu'on n'a jamais intégré la France ultramarine dans le territoire européen de la France. Pour de trop nombreux métropolitains, la France et l'Hexagone et la Corse, l'Outre-mer n'en fait pas partie. Alors ça, c'est ce qu'ils disent dans ce sens-là. Mais dans le sens, quand nous, on essaye d'aller chez eux, on se fait virer un coup de pompe dans le train,
oui, voilà.
Comme Sarkozy. Pas toujours, mais généralement quand même. Et elle ajoute, et que l'on ne me parle pas de reconduite à la frontière. Il suffit de prendre le bateau pour arriver aux Saintes, et quand on est aux Saintes, on rejoint la Dominique par avion, le vol dure 7 minutes. Effectivement, c'est pas très long, ils doivent les jeter avec un lance-pierre, c'est pas possible.
Oui, c'est un vol de 7 minutes.
Cette commission d'enquête au Sénat donnera l'occasion d'étudier les conséquences néfastes de l'immigration non contrôlée sur les territoires français.
Elle est bien, Lucette, alors si...
Mes chers collègues, je vous remercie d'avoir pensé que les institutions de la République étaient en danger. Mais ça, c'est tant mieux. Enfin bref. Mais l'identité culturelle de l'outre-mer l'est également. Notre nourriture a changé. Nos danses ne sont plus les mêmes.
Ah bah oui.
La langue haïtienne commence à être utilisée chez nous. Or, nous tenons à préserver notre identité culturelle.
Eh ben voyons.
Voilà. Bah, signé Le Pen.
Luchette Michaud Le Pen. Voilà. Très bien.
Il faut signaler des phénomènes identiques, rigoureusement identiques, en Guyane, pas très loin, et de l'autre côté de la terre, dans les îles Comores, sur 4. Je crois qu'il y en a 3 qui ont demandé leur indépendance. Quelques années après, c'est le bazar, c'est la misère, et tout le monde réplique dans l'île, je crois, d'Anjouan.
Mayotte.
Dans la Mayotte, pardon, qui est restée française. Il y a eu un grand reportage d'extrême gauche, naturellement, sur France Inter il y a quelques jours là-dessus, où évidemment on présentait les choses à leur manière, mais où on les présentait quand même. Quoi. C'était bon, les passages en bateau clandestins, etc. Enfin, le cercle habituel. Quoi.
Alors, on a parlé tout à l'heure de la condamnation du député Christian Van Est, qui s'est contenté de dire que l'homosexualité était une menace pour l'humanité, ce qui me paraît totalement ridicule.
Techniquement, c'est pas idiot.
Ça tient pas debout, parce que
ils
finiront par... C'était Geneviève de Villemain qui disait ça, je crois. Mais c'est quand même extraordinaire. Ils se reproduisent pas, et pourtant, ils sont tout le temps plus nombreux. Alors, en revanche, Sniper a été relaxé en appel, vous savez.
Qui c'est Sniper?
Sniper, le groupe Sniper.
Ah, Sniper.
Les rappeurs.
Ah, oui.
Les rappeurs.
Oui.
On n'est pas dupes. En plus, on est tout chaud pour mission exterminer les ministres et les fachos. Voilà. Alors, ils ont dit, mais c'est pas grave. Eux, ils n'ont pas dit que l'homosexualité est une menace pour l'humanité. Ils ont dit, la France est une garce. Il faut que ça pète. Tu sais, le système nous marche dessus. Les frères sont armés jusqu'aux dents, prêts à faire la guerre. Ça va du gun jusqu'au fusil à pompe. Pitbull et Rottweiler, ils m'en ont fait baver ces enculés, mais ils n'ont pas tout vu. Voilà. Ça, on peut dire, ça.
Oui.
Quoique, peut-être que pour la dernière phrase, ACT UP va... et poursuivre.
Serge, je voulais signaler hier, entre quatre yeux, il y a mieux, il y a une chanson de rap qui vient des mêmes jeunes de banlieue, qui appelle à l'extermination des juifs et qui mouline ce concept pendant 3 minutes dans des termes impubliables. Alors, on a un problème. Alors, le correspondant qui m'a signalé ça doit vous l'envoyer par Internet, mais moi, connaissant un petit peu la loi, je vois pas comment on peut le faire entendre aux auditeurs, parce que c'est nous qui irions devant les tribunaux. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ça dépasse même la rhétorique nazie, quoi.
Alors, mais pourquoi vous allez contre les nazis? Vous êtes toujours en train de dire du mal des nazis. Mais vous les avez connus personnellement? Oui, il est incroyable, ce type. C'est désagréable, finalement.
Ah, t'es plus malin que
le fureur. C'est une fois plus malin que le fureur. Non, mais vous allez être poursuivi, ouais. Parce qu'après tout, la discrimination, c'est ça aussi. C'est ça, il faut pas... Michel de Ponsin publie dans le prochain numéro du Libre Journal un truc génial, je vous le livre en d'avance, parce que je peux pas résister au plaisir. Il a poussé au bout la logique de la non-discrimination. Et il dit tout simplement, c'est la ruine des agences matrimoniales.
Oui.
Parce que quand un type va passer une annonce en disant « cherche épouse catholique », boum.
Déjà, ça en fait deux.
Française, boum, trois. Grande, quatre. Et alors les petites. Alors, procédé personnes non grandissantes.
Brune. Ah, merde, brune. Les blondes. Les blondes.
Faut mettre « cherche ».
Puis c'est « voilà, cherche ». Parce que même « cherche une femme », c'est aussi de la
discrimination. Ben oui, c'est une discrimination.
Que fait va dire « alors, et nous ?» Ben non, j'en veux pas. Ah, comment ça, vous n'en voulez pas?
Bon, ça aura quand même.
Voilà. Machin, cherche et un numéro de téléphone.
Voilà.
Machin, cherche.
Voilà. Bon, quoi dire? Oui. À propos de Johnny, quand même, on va y revenir, on devrait dire un mot quand même, parce que
la fuite des cerveaux. C'est notre rubrique, la fuite des cerveaux.
Est-ce que vous savez que j'ai écrit un livre avec Hallyday il y a 20 ans?
Le docteur Poudret.
C'est moi qui ai écrit le livre, lui il a mis sa photo.
Ah ben, ça c'est bien. Non, parce que vous savez qu'il a demandé à devenir belge.
Oui.
Comme son père. Il m'a dit, ouais. Mon père, il était belge, j'ai trouvé une voix comme lui. Alors, en fait, il y a des fiscalistes qui disent pas exactement ça. C'est plutôt que le fait que... alors, il avait dit ça, pardon, mais il y a 3 ans, il avait dit « Si je n'étais pas aussi attaché à ce pays, mon pays, je serais parti. » Donc, 3 ans après, il n'est plus attaché. La vérité, nous disent les fiscalistes, c'est que depuis De Gaulle, les Français sont victimes d'accords spéciaux entre le fisc hexagonal et la principauté. C'est-à-dire que la principauté ne peut pas accorder aux citoyens français les mêmes avantages fiscaux qu'elle accorde aux autres. Donc, tu commences par devenir belge, et ensuite, tu peux aller maintenant à Monaco pour toucher de l'argent.
Et voilà, c'est le billard à 3 bandes.
Ça, si tu sais être intelligent, tu peux gagner fort.
Au nom du père et du fisc.
Et alors, en fait, dans mon filial... Je me souviens qu'on avait assisté, il y a, je sais pas, 20-30 ans, une vingtaine d'années, aux retrouvailles de...
Oui, avec son père.
Léon, son père, s'appelait Léon.
Léon.
Et puis ça s'était mal passé, hein. Parce qu'il faut savoir que Léon, il avait eu une fois des ennuis, il était un petit peu clochard sur les bords et... Il avait été, pendant l'occupation, il avait trouvé un petit travail sympathique. C'était lui qui dirigeait la chaîne de télévision Fernsehende en Paris, installée en 42 dans les locaux d'un ancien musical, le Magic City rue Cognac-Jay, et diffusée dans les foyers de Gefreiter, et la latte s'arrête. Ah! Alors à l'épuration, on lui a dit, camarade, la télévision, c'est fini. Voilà. Donc, il a été épuré. Il a confié son fils à sa sœur.
Un pionnier.
Qui s'appelait Hélène Amar. Non, mais c'est vrai. Hélène Amar. C'est génial, non? Et laquelle a élevé Johnny avec ses propres filles qui s'appelaient Ménène et Desta. Ouais, Ménène. Desta. Elle doit être un peu raseur, non?
Je suis né dans la rue.
Oui. Et alors, Desta avait épousé, Desta qui est toujours vivante et qui est une femme d'ailleurs très gentille. Elle avait épousé un cow-boy de music hall qui s'appelait Lee Hallyday.
Lee Hallyday, voilà. Ouais.
D'où le nom de Johnny.
Tout à fait.
Voilà encore un peu d'histoire du showbiz.
J'ai l'impression quand même que Bernadette Chaudron de Courcelles, elle va être un peu veuve là si Hallyday nous quitte, parce que c'était une grande famille quand même.
Ah non.
Ah, t'es tellement amie avec Johnny.
Le tribunal correctionnel a collé 3 mois avec sursis. 200 000 euros d'amende et 15 000 euros de frais de réparation à Pierre Pinoncelli. Vous savez ce qu'il a fait, Pierre Pinoncelli ?
Non.
Eh bien, Pierre Pinoncelli, c'est un artiste de l'école de Nice. À l'école de Nice, je vous dirai ce que c'est après, parce que c'est l'école du vide.
L'école du vide, oui.
Ouais. C'est les gars qui écrivent des mots.
Voilà, des choses comme ça. Et puis ils font des tableaux vides et des choses.
Oui, merde à toi.
Voilà, c'est ça. Et alors, il a donc Pinoncelli, il n'a pas apprécié l'urinoir de Marcel Deschamps.
Ah oui.
Dont on apprend qu'il est quand même estimé à 3 millions d'euros.
Hein. Il a pissé dedans.
C'est la pissionnaire la plus chère du monde, de l'univers probablement. Et alors, il
s'est pissé dans le...
Non, non, attendez, c'est encore plus joli que ça. Il a mis un coup de marteau dessus, il l'a écorné.
Alors,
bon.
Ça, c'est laid.
Mais il y a maintenant 13 ans, en 93, je crois, il avait déjà, effectivement, compissé l'urinoir de Marcel Duchamp.
Oh là là.
Il y en a 8 urinoirs de Marcel Duchamp dans le monde qui sont exposés dans les plus grands musées. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle société on vit? C'est-à-dire que dans les musées, ils mettent, bon, y a des pissotières comme partout, et ils mettent dans les salles d'exposition des urinoirs. Et si le type est trop pressé et qu'il pisse dans l'urinoir, il prend quand même 200 000 euros d'amende. Et alors,
vous peut-être mieux lever la patte sur la Joconde, je sais pas, non.
L'entêté non prostatique Pinoncelli. Pinoncelli avait déjà été condamné pour avoir compissé l'urinoir de Duchamp, au motif que ce dernier, ayant élevé la pissotière au rang de l'art, il entendait lui, Pinoncelli, élever l'art au rang de pissotière. C'est vrai que c'est quand même autre chose que la querelle entre Ingres et Delacroix, non?
Il méritait mieux qu'une amende. Voilà. J'en profite par association d'idées pour mettre en garde nos auditeurs contre une pièce qui se joue actuellement à Paris. Il s'agit d'un texte de Dostoïevski en allemand, et une de nos fidèles auditrices, eh ben oui, ça en fait quand même, parce qu'imaginez-vous que la salle était pleine d'Allemands, ils sont nombreux les Allemands de Paris, et puis il y a les étudiants en allemand. Voilà. Alors, et d'ailleurs pour la plupart ça les amusait, mais notre auditrice me raconte que son fils de 12 ans lui a dit au bout de 10 minutes, maman j'ai envie de vomir tellement ça me dispense d'en dire davantage. Ouais. Donc faites attention, ça n'est ni Dostoïevski ni Goethe, et c'est à fuir.
Et c'est où que j'y aille?
Pauvre maniaque. Voilà. Eh bien, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Avec...
Attendez, monsieur, est-ce que je peux vous dire, alors, à propos des grosses... puisque vous étiez dans le showbiz, avez-vous regardé l'émission qui veut gagner des millions hier soir? Édifiant.
Ah, j'ai vu. J'ai regardé pendant une minute, même pas, 30 secondes, et la question posée était... ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te... Alors justement, c'était que l'on te fera, que l'on t'aurait fait, que l'on te fisse, ou que l'on te fie. Et il y avait là une espèce de dondon qui participe aux émissions de Ruquier, comment elle s'appelle? Vous l'aimez bien, ou parce qu'elle vous fait rire? Merdeau, oui.
Ah non, c'est pas un dondon, c'est des filles des Mérovilles.
C'est mal Merdeau.
Oui, non, elle est vachement bien balancée,
Merdeau. Ouais, laissez-moi aux spécialistes, s'il vous plaît. On n'entend pas ce que vous dites. Non, ils vont mieux parce que, étant donné que c'est des bêtises grosses comme elles.
T'es jolie, je t'aime bien, Merdeau.
Bon, ben voilà, elle aime bien Merdeau. Et alors, elle a dit, elle était, ses fils, il faut répondre, ses fils. N'aimerait pas, ne fais pas aux autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fisse.
Compte-fils,
oui. Même pas français, elle parle.
Oui, allez, mais l'autre, il disait d'autres filles. Alors, lui, celui qu'on nous signale, là, c'est édifiant. Le chanteur Corneille, suite à une question idiote sur le poids d'un Napoléon, ne voulait pas répondre pour ne pas avoir à prononcer le nom de l'empereur.
Attendez, cette fiotte, il faut quand même savoir une chose.
Il est entré
en France il y a peu de temps. Il était au Burundi, Bujumbura, Boulaboula, je ne sais pas quoi. Donc il vient vivre chez nous. Et à peine arrivé, il commence à nous engueuler. Engueuler notre histoire. Mais c'est vraiment incroyable.
Avant qu'on ne passe aux choses sérieuses, Serge, j'ai encore deux petits points d'actualité à souligner. D'abord, on a reçu ensemble une dépêche AFP hier concernant le nouveau livre de Monsieur Martinez. Cette dépêche, avant même qu'on ait pu l'imprimer dans le Libre Journal numéro 369, ce qu'on fera quand même, elle lui vaut le mur du son à la Une du Canard enchaîné aujourd'hui. Donc ça nous dispense d'avoir une opinion sur la question. Et puis peut-être que que Bernard Anthony en parlera tout à l'heure de cette dépêche. Moi, ça me braque pas du tout contre le Front National que M. Martinez barre à gauche. Et je voudrais donc, avec votre permission, signaler une de ces nombreuses galettes des rois, celle du 9-1 en force, donc dans l'Essonne. Ce sera le dimanche 29 janvier au relais des Chartreux sur la route nationale 20 sur les Chartreux. Voilà, les habitants de l'Essonne savent de quoi je parle. Une dernière chose que je veux signaler avant qu'on ne donne la parole au docteur, c'est que c'est par pudeur que vous n'avez pas fait état et que parce que vous avez éclaté de sanglots en ouvrant VSD ce matin, non, qui publie la nécro de Chirac piquée sur France 2. Ce qui est la viande froide, vous savez, ce qu'on appelle dans notre jargon.
Oui. C'est-à-dire les papiers qu'on fait pour le cas où le mec claquerait sans prévenir, on peut placer tout de suite.
Donc comme celle de beaucoup de personnalités, sa nécrologie est prête à France 2, quelqu'un la pique, la donne à VSD, qui la publie comme une allusion à son état de santé, parce qu'on a déjà raconté ici et dans le Libre Journal imprimé les multiples dérapages de Chirac. Alors le dernier, toujours dans le canon enchaîné ce matin, c'est le malheureux ministre Christian Estrosi qui parle des veaux du Ségala, et Chirac pique une véritable crise mais prolongée pour dire et répéter ce qui n'était pas du tout le sujet. Non, c'est le veau corrézien qui est le meilleur. On lui dit oui, certainement, bien sûr, mais c'est pas pour ça que je vous parle du veau de ces gars-là, c'est parce que il a reçu tel label et ça n'avait rien à voir. Et il a répété 5 fois jusqu'à ce que le Conseil des ministres éclate de rire devant ce délire complet. Alors ça, voilà. Donc pour la nécrologie, il y a une autre explication à la publication de cette nécrologie, c'est que il a pas bonne presse, Chirac, en ce moment. Et les nécrologies sont toujours très flatteuses. Alors c'est peut-être lui qui a un trigger finalement.
Pour qu'on la passe, c'est la dernière occasion pour qu'on dise du bien de lui.
Un petit pan sur le Bekech quand même. Oui. C'est pas Mergot, c'est Christine Bravo.
Non, c'est pas Christine Bravo.
Ah bah en tout cas c'est pas Mergot.
Non, c'est pas Christine Bravo.
Si c'était Mergot.
Enfin pas.
Bon bah n'en parlons plus.
C'est une ignare, on dit fille, puis voilà.
Pas sûr.
C'était pas Christine Bravo, je suis sûr.
Ah non, c'est
les porte-avions britanniques n'ont pas de catapultes et sont prévus pour des arrière-avions à décollage vertical très court et très dangereux d'ailleurs. Les avions, ça c'est un auditeur qui nous
sait. Ah,
les avions français en essayant de décoller du pont tomberaient simplement à l'eau. Voilà
non,
le piège.
Bien sûr. On va coller des catapultes avec du chewing-gum et du fil de fer comme d'habitude.
Perfide Albion, ils nous vendent des porte-avions qui ne correspondent pas à nos aéronefs. Bien, dans cette bêtise, on continue. Non. Au chapitre de la perfide Albion, voilà, on a arrêté une arnaque au RMI de 650 000 euros en Dordogne, au bénéfice d'Anglais, récemment installés sur nos terres du Sud-Ouest. Oh, c'est vraiment sympathique ce pays. C'est pas étonnant qu'ils viennent chez nous.
Même les Anglais s'y mettent.
Je vois pas pourquoi ils se gêneraient. Hein. Voilà, c'est tout. Eh bien, donc je me tourne maintenant sérieusement, si j'ose dire, vers le docteur Oudret. Donc, docteur Oudret, vous avez fait un livre qui s'appelle, le titre est lumineux, c'est très bien, il s'appelle « Les additifs alimentaires ».
Oui, et le sous-titre...
C'est une nomenclature.
Le sous-titre, c'est « Un mal nécessaire, point d'interrogation oui. ». Donc, je pose la question.
Alors d'abord, combien y a-t-il de catégories de, il y a les colorants, les agents de sapidité il y en a...
Alors, il y a un certain nombre de catégories d'additifs alimentaires. Très exactement, il y en a 8 et 9 si on compte les enzymes et les amidons. Alors, tout ça... Ça sert à des choses diverses. Soit à améliorer la conservation et non pas la conversation. La conservation des produits.
Avec du E203, c'est un petit peu.
Soit à améliorer leur aspect, à les rendre plus attractifs, plus jolis, plus brillants. Voilà, c'est les deux fonctions principales. Donc,
alors il y a quelques années, il y a eu énormément de polémiques autour des additifs alimentaires, notamment les colorants aussi d'ailleurs, qui est le contraire des édulcorants.
J'en ai mangé beaucoup,
les colorants. J'en ai mangé trop. on disait que ça donnait le cancer, que ça faisait pousser les sourcils, enfin des trucs absolument épouvantables. Sérieusement, est-ce que encore aujourd'hui, on trouve dans l'alimentation des additifs qui présentent un danger réel?
Ouais. Alors voilà, Les additifs sont regroupés sous une nomenclature générale qui commence par E et qui se termine par un tiret et un chiffre. Alors E, ça veut dire Europe, tout simplement. Le tiret, ça veut rien dire. Et le chiffre, c'est le répertoire qui permet de les retrouver dans la liste. Les gens, c'est une très mauvaise idée, mais on faisait comme ça, d'avoir dénommé E412, E518, parce que les gens s'imaginent que c'est forcément des produits chimiques épouvantables, des trucs toxiques, alors qu'en réalité, c'est rien, c'est un numéro d'ordre, c'est tout. Bon. Alors maintenant, pour répondre précisément à votre question, est-ce qu'il y a là-dedans des produits réellement toxiques ? Oui. Il y a quelques produits réellement toxiques où on peut se demander à quoi le législateur pensait quand il a autorisé ces produits-là.
Si c'était le seul sujet sur lequel on se pose cette question, ça serait moindre mal. Hein.
D'accord. Alors là, je parle du législateur européen, c'est un peu différent.
Le pire.
Le pire, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Il y en a peu, hein, mais il y en a quand même un certain nombre. Ensuite, il y a des produits en face desquels on est perplexe. C'est-à-dire que, bon, ben, on n'est pas sûr qu'ils sont toxiques, mais on n'est pas sûr non plus qu'ils ne sont pas toxiques. Alors, pour avoir une petite idée là-dessus, il suffit d'observer comment les autres pays, enfin les pays qui font partie d'autres continents, plus exactement, parce que les pays européens ils font tous la même chose, comment les pays d'autres continents se comportent en face de ces produits. Alors, il y a certains produits qui sont interdits aux États-Unis, et qui sont autorisés en France. C'est surtout en Australie où il y a plus de produits interdits qu'en Europe. Parce que les Australiens, peut-être, sont un peu plus chatouillés par l'esprit écologique, je ne sais pas. Alors voilà. Donc il y a des produits qui sont considérés comme parfaitement non toxiques en Europe, et qui sont fortement déconseillé aux États-Unis ou en Australie.
Et comment expliquez-vous que la faculté qui traque, par exemple, les médecines parallèles ou certains produits non affectés de l'autorisation de mise sur le marché garde le silence quand on sait qu'il y a des produits alimentaires qui sont des poisons ?
Alors, la faculté garde le silence, d'abord parce que la faculté, on lui demande pas grand-chose. Elle fait partie du comité d'homologation d'attribution des autorisations. Donc, c'est une branche de l'Académie de médecine qui s'occupe de ça. Donc à partir du moment où l'autorité supérieure a donné son accord, on peut considérer que c'est bien.
Cet accord, il est fondé quand même sur... Enfin, j'imagine que c'est pas une décision politique, c'est pas n'importe
quel député pas du
qui
tout.
Dit, voilà, on va autoriser le tréponème de Garfunkel pour donner des couleurs...
Ou l'aspartame.
Ou l'aspartame, par exemple.
L'aspartame, c'est un produit parfaitement autorisé. J'ai pas tout à fait fini de répondre à la question précédente. C'est-à-dire que vous me demandez pourquoi les médecins protestent pas. Eh bien, les médecins ne protestent pas. D'abord, il y en a qui protestent, mais la majorité, ceux qui protestent sont généralement atypiques. La majorité se contente de ne pas protester, puisque l'Académie de médecine a dit que c'était bien. Donc, si l'Académie de médecine a dit que c'était bien, c'est que c'est bien, et puis c'est tout. Alors, bon, c'est comme ça.
Non, mais vous, dans le bouquin, vous dites bien qu'il y a des produits dangereux. Donc,
je dis qu'il y a des produits dangereux.
Les foudres de l'Académie ?
Oh, je m'en fous, éperdument, mais c'est pas... Ça n'a aucune espèce d'importance.
Même pas en campagne électorale, visiblement. Là.
Non, pas du tout. Et non, je pense que La bonne foi, je pense que la bonne foi de tout le monde ne peut pas être surprise. C'est pas je ne crois pas que il y ait des sombres calculs et des sombres affaires d'argent qui font qu'on autorise ça plutôt que ça, plutôt que ça, plutôt que ça. Non, je pense que c'est plutôt à l'image de notre monde en général, c'est-à-dire la connerie, le je m'en foutisme, c'est quoi comme ça, il y a 24 commissions pour décider d'un truc, le temps qu'on ait le résultat, c'est n'importe quoi.
Il se joue certainement un rôle important, mais moi je suis moins optimiste que vous, je suis tenté de croire qu'il y a effectivement une volonté mauvaise derrière tout ça.
Non.
Je prendrai qu'un exemple, c'est l'omniprésence des édulcorants. C'est pas par hasard quand même que les édulcorants sont présents partout.
Oui, mais c'est oui et non. C'est parce que, vous savez, c'est extrêmement compliqué. Parce que là, on aborde, avec ces additifs alimentaires, c'est un problème presque politique, sociopolitique. Bon, les édulcorants. Pourquoi est-ce qu'on met des édulcorants? Parce que les gens, la masse des gens, aime le goût du sucre. Donc, ils ont tendance à manger beaucoup de sucre.
On sait que c'est très dangereux, puisque en même temps, sur le diabète.
Comme dans les supermarchés, les aliments les moins chers sont les plus sucrés, les plus caloriques. Ce qui est le moins cher, c'est les pommes de terre, les pâtes, le riz, le sucre en morceaux, le sucre en poudre, après la confiture, après tout ce qu'on fait, le chocolat, etc. Bon, donc, puisque c'est le moins cher et que ça flatte le goût, les gens en mangent. Bon, donc, à la limite, le fait de mettre des édulcorants, c'est faire une œuvre de salubrité publique. C'est sauver la vie des gens contre eux. Pardon.
Ça tue les pauvres.
Oui, enfin ça, je ne peux pas vous suivre dans ces raisonnements.
Non, écoutez, c'est ça le raisonnement, c'est-à-dire que vous dites les choses les moins chères sont les plus sucrées, donc c'est évidemment les pauvres achètent les choses les moins chères.
Oui, bien sûr,
c'est pour ça qu'ils sont pauvres.
Mais les pauvres sont les obèses.
Voilà, c'est
aux États-Unis, les pauvres, c'est les noirs, enfin les obèses, c'est les noirs pauvres, parce que leur seul plaisir, la seule distraction qu'ils peuvent s'offrir avec les aides qu'ils reçoivent de la municipalité ou du gouvernement, j'en sais trop rien, c'est d'aller au supermarché acheter des trucs et de les bouffer vautrés sur un canapé en regardant la télé. Bon, chez nous, ça commence. Et la vague d'obésité est en train de s'installer en commençant par les debout, par les enfants d'une part et par les chaumistes d'autre part. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques, enfin je pourrais, mais enfin, c'est pas mon rôle ici. Et je crois que il est facile à comprendre que quelqu'un qui n'a que peu de sous et pas beaucoup de distractions, parce que du fait qu'il a peu de sous, il a une télé, il va au supermarché, il achète ce qui coûte pas cher, il en achète le plus qu'il peut. Et puis après, il le mange. C'est pas criminel. Mais après, il devient gros. Et plus il mange, plus il devient gros.
Vous écoutez Radio Courtoisie. Ça fait un moment qu'on a oublié.
Oui, c'est bien ça, c'est-à-dire que...
Alors, le fait de mettre des édulcorants, peut-être que c'est potentiellement dangereux, et encore, c'est loin d'être prouvé, puisque on attend toujours le résultat d'une méta-analyse, d'une méta-expérimentation qui a été faite sur l'aspartame. Bon, il y a des vagues rumeurs à la gomme qui disent que l'aspartame, ça provoquerait ou ça favoriserait le cancer de la prostate chez le rat à la 5e ou 6e génération. Alors, premièrement, on n'est pas des rats. Deuxièmement, on n'est pas la 6e génération. Puis, troisièmement, il vaut mieux mourir d'un cancer de la prostate à la 6e génération plutôt que de voir la totalité de la population décimée par une obésité et un diabète galopant. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut faire des choix.
On peut aussi apprendre aux gens à manger moins de sucre.
On peut essayer, voilà. mais c'est impossible. Écoutez, vous avez des populations dites défavorisées, disons des gueux. qui, d'un seul coup, arrive au...
Pourquoi pas de la racaille?
J'ai pas dit ça, non, mon cher.
Gueux, c'est joli.
Bon, qui, d'un seul coup, à la suite d'événements politiques, de guerres ou de machin, voit à s'abattre sur eux la manne des États-Unis avec du Coca-Cola, du chocolat, de la bouffe, tant qu'on veut. Bon, ces gens qui crevaient de faim passent brusquement à la suralimentation. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est sans frein. Ils s'empiffrent tant qu'ils peuvent jusqu'à en crever. Et les survivants deviennent obèses. Les Chinois... Écoutez, j'ai dit au marquis tout à l'heure que depuis 6 jours, je suis avec un groupe de Chinois qui est venu me voir pour des raisons... parce que je les intéresse. Non, c'est pour des produits. Bon, et justement, ils sont venus me voir pour que je les conseille dans leur stratégie commerciale pour faire maigrir les gens. Parce que... Ils mouraient de faim il y a 10 ans, aujourd'hui ils sont en train de mourir d'athérosclérose et de diabète. Donc, vous faites ça avec des Noirs, vous faites ça avec des Indiens, vous faites ça avec des Lapons, là, des Inuits. Il y a eu une émission l'autre jour à la télévision absolument hallucinante. On montrait un Inuit qui pêchait, machin, etc. Enfin bon, traditionnel, avec des pots de phoque et des trucs. Et puis, on l'interviewe. Et on lui dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Le gars, il dit, je compte prendre ma retraite le plus vite possible, je veux me mettre sur un canapé devant ma télé, je veux plus bouger. L'intervieweur, il était comme des rentrants. Et voilà, le monde entier veut ça. Rester tranquille, bien bouffé, et puis bon. Alors, donc, vous m'avez compris,
oh oui.
C'est comme ça, parce que c'est comme ça, et on n'y peut rien. Donc... Ou on essaye de raisonner les gens et on n'en sortira jamais parce que c'est pas possible. Ou on fait de la prévention forcée, c'est-à-dire qu'on supprime le sucre, on le remplace par de l'aspartame ou par autre chose. Ben, il n'y a pas que l'aspartame, il y a d'autres choses. Hein, il y a l'isomalt. Bon. Et puis, on allonge la farine en mettant autre chose dedans qui est moins calorique. Enfin, on essaye d'arranger les choses contre la volonté des gens. Le gouvernement, en ce moment, en accord avec Coca-Cola, j'ai entendu ça ce matin à la radio, a décidé de... Alors, Coca-Cola a donné son accord. On va démonter les distributeurs qui sont dans les collèges. On va laisser que dans les lycées. Et on va mettre, en plus du Coca, on va mettre de l'eau gazeuse. Bon, donc, non, mais bon, ils en boiront peut-être ou pas, mais enfin, il y a un effort de fait. Et puis le Coca Light, 0 calories dans une bouteille de Coca Light, alors que dans une bouteille de Coca normale, il y a l'équivalent de 14 morceaux de sucre. 14 morceaux de sucre, vous vous rendez compte?
Vous charriez un peu, docteur, moi j'ai une boîte de Coca à la main, je lis 47...
47 kilocalories.
Ben oui, puis c'est une canette de qui faisait 33 centilitres.
Je vais quand même pas contester ce que dit mon ami le docteur. Tu commences à être
bon. Non, je me laisserai pas faire.
Il est en train de se faire des amis, lui. Alors, c'est vraiment Goffman, vous savez, vous me faites beaucoup de peine. Hein. Moi, j'essayais de faire une émission consensuelle. La dernière fois, il se payait Michel Delire, cette fois, c'est le docteur Audrey. Franchement, ça va pas durer longtemps. Hein. On va être viré. On va être viré.
Moi, contester la néo-tradition du 7-7.
Les additifs alimentaires, bon, ben, là, on a bien compris, je crois, ce que l'intérêt et les limites de l'intérêt des édulcorants. Bon, mais il y a tous les...
Mais il y a les colorants.
Les colorants.
Mais bon. Les colorants, à quel besoin ça correspond? C'est pour que...
Eh bien, ça correspond au même besoin qu'à votre belle-sœur d'aller chez l'esthéticienne se faire dorer la pilule avant d'aller au mariage de votre neveu. On améliore l'aspect de la marchandise avant de la mettre à l'étal. C'est normal. Donc, ça correspond à ça. Ça se vendra mieux si c'est plus joli.
Enfin, c'est quand même... Pardon. Je vous donne le bâton. Oui. Allez-y.
Un auditeur vous demande une liste de colorants apparus il y a quelques années, issus de l'Institut Gustave Roussy. Notamment les E330 et E450. Qu'en pensez-vous?
Je trouve d'abord que le fait que l'Institut Gustave Roussy fasse une liste des colorants, c'est son boulot, quoi.
Hein? Ben oui. Alors, d'abord, j'en pense rien. Alors, je vais vous dire ce que c'est que les E330. Je ne veux pas vous barber pendant des heures. Hein. Les E330, c'est de l'acide citrique. C'est-à-dire que ça se trouve dans le citron. Voilà. Le 331, c'est du citrate de sodium, citrate de potassium, citrate de calcium. Donc tout ça, c'est des dérivés du citron.
Et le 450 ?
Alors, attendez. Le 334, c'est de l'acide tartrique. Donc ça se trouve dans le vin, avec les tartrates de machin, etc. Ensuite, vous avez l'acide orthophosphorique, qu'on trouve dans la nature, dans les plantes, dans... Bon, donc tout ça n'est pas... Bon, alors ensuite, le E450, vous avez dit E450, moi je ne sais pas par cœur. C'est diphosphate d'ester de glycérine. Donc c'est un dérivé de la glycérine.
Miam, miam.
C'est quand même pas réputé pour être hautement toxique.
Non.
Mais je ne suis pas là pour défendre l'industrie pharmaceutique. Hein. Il faut pas... pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout.
Oui, mais,
mais je suis fatigué d'entendre...
Complots, malgré tout.
Non, je suis fatigué d'entendre des histoires d'écolos et le moustachu, là, machin...
Beauvais.
Et une bande d'hystériques derrière qui sont là, qui sont derrière et qui sapent le moral des gens et qui préfèrent bouffer des pommes habitées par des vers plutôt que des pommes traitées et des machins à moitié pourris. Non, il faut quand même pas se foutre du monde. Si la longévité des hommes augmente tout le temps, bon. Reprenons le
point. C'est grâce à l'aspartame.
Non, c'est pas grâce à... l'avenir, ça sera grâce à l'aspartame. En 1830, la durée moyenne de la vie en France, hommes et femmes confondus, était de l'ordre de 35 à 38 ans. Aujourd'hui, les femmes viennent en moyenne presque à 80 ans, et les hommes, en moyenne, presque à 70 ans.
Ça en fait des heures de télé sur le...
Si vous permettez, là, il y a une petite nuance à apporter, parce que dans le premier cas, vous donnez la durée moyenne de vie, dans le deuxième cas, vous donnez l'âge moyen des décès. Enfin, pas l'âge moyen, mais l'âge des décès pour les gens qui ont vécu. Je sais pas la même chose. Alors, en 1830, les gens ne mouraient pas à 35 ans, il y avait des centenaires, il y avait des gens...
Ah bah bien sûr.
Simplement, il y avait pratiquement 3 bébés sur 5 qui mouraient à la naissance. Des fièvres puerpérales.
Ah ouais, non, je sais pas.
Ça fait beaucoup baisser la...
Non, non, je compte pas ça.
C'est en ligne de compte. Et maintenant,
non.
Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on surprotège les vieillards, enfin, de la vie de certains héritiers, et que le résultat, c'est que ça fait des... Oui, c'est pas aujourd'hui.
Attendez, et laissez-moi reprendre, s'il vous plaît. Je suis pas d'accord avec vous. Quand je parle de la durée moyenne de la vie en 1830, je parle pas de la mortalité infantile. Je parle de la durée de la vie des gens qui ont passé la barrière de la mortalité infantile. Et la moyenne d'âge, évidemment, il y a toujours eu des centenaires. Scarron est mort, Fénelon, etc. Bon, mais ça a toujours existé, mais c'était pas la norme. Aujourd'hui, on sait qu'une petite fille sur 3 qui naît aujourd'hui arrivera à 100 ans.
Bah,
une sur 3. Bon, mais pourquoi... Attendez, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi la durée de la vie globalement augmente. C'est pour des tas de raisons. D'abord parce que la vie est moins dure, parce qu'il y a l'électricité, il y a l'eau courante, les gens se crèvent plus la paillasse à balader des stères de bois. Bon, en plus, ils se lavent. Bon, en plus, et surtout, ils bouffent plus des trucs à moitié pourris, comme ça a été le cas depuis l'Antiquité jusqu'à ce qu'on invente le frigidaire.
Le réfrigérateur.
Le réfrigérateur.
Bon. Et qu'on ne fait pas de publicité sur Radio Cantonie.
J'espère que c'est bien clair. Les gens mouraient de cancer de l'estomac, ils avaient les intestins, ils avaient la chiasse tout le temps. Enfin, c'était effrayant. Sauf pour les aristocrates qui... c'était une poignée. La masse faisait ce qu'elle pouvait. C'était pas drôle.
C'était le bon temps.
Donc, je pense que de ce point de vue-là, les additifs alimentaires, les conservateurs ont apporté des choses. Maintenant, il est sûr qu'il faut pas non plus tomber dans l'extrême. Quelque part, dans mon livre, je donne la recette. Comment faire des saucisses, sans porc, sans rien. C'est simplement avec un bout de couenne, avec des colorants, du colorant rouge, du machin qui donne du goût, etc.
Bon, la cochenille.
Ça, oui, ça, mais c'est pas toxique, hein, la cochenille.
Non.
Mais c'est se foutre du monde. Ouais. Je suis d'accord, mais c'est pas forcément dangereux.
Mais on peut, votre livre, on peut l'avoir sur soi. D'abord, il a un petit format.
Oui, il a un petit format. Oui.
Il est pas gros. Bon.
Les additifs.
On peut les additifs alimentaires.
Par le docteur Oudet.
Est-ce vraiment nécessaire?
Oudet, pardon.
Oudet. Et donc on peut se balader avec. Et quand on va acheter quelque chose, on regarde la liste des additifs. Et puis on se reporte à votre livre et on voit si on risque de crever dans les 12 minutes ou si on a des chances de faire un centenaire.
C'est quand même, tenez, j'ai écrit ça, je ne veux pas vous faire une lecture longue, mais c'est juste 3 lignes. Hein. Dernière recommandation avant de la lecture des étiquettes au supermarché. Munissez-vous d'une canne siège ou d'un pliant, parce que ça peut être long. D'une loupe, parce que souvent les mentions sont illisibles. D'un calmant léger, parce que l'exaspération peut vous gagner. Et enfin de cet ouvrage, parce que sans lui, c'est incompréhensible.
Précision quand même.
C'est drôle.
C'est drôle. Bah, bien sûr, mais le docteur, il est quelqu'un de très drôle. Il a de l'humour, heureusement. Je voudrais apporter une précision. Docteur, vous nous avez dit que vous donnez la recette de la saucisse sans saucisse. Je précise qu'en tout cas, c'est pas un livre de cuisine et que c'est pas le livre de cuisine qu'on utilise chez vous.
Merci, c'est gentil.
Un auditeur vous demande, j'ai lu dans une revue que l'aspartame pouvait provoquer des œdèmes. Qu'en est-il?
Je ne sais pas. Et ça peut provoquer des œdèmes chez quelqu'un qui est allergique à l'aspartame. Mais madame, vous pouvez être allergique au latex et je vous laisse envisager ce qui vous arrive si vous mettez une capote. Et vous pouvez être allergique aux fraises.
Ça, c'est l'humour carabin.
Ou à n'importe quoi. Donc, c'est pas réputé pour provoquer des allergies.
Je crois, docteur, vous le confirmerez que l'aspartame peut causer une fracture si on se laisse tomber une caisse de vin.
Et un autre auditeur vous demande, je crois que l'aspartame devient cancérigène au-delà de 35 degrés et comme on met ça dans le café.
Je crois que c'est au-delà de 35 kilos. Parce que...
Non, je ne crois pas, madame. Je pense que cette personne a une idée qui est fausse.
Voilà, ça peut... Ben écoutez, le mieux, c'est de prendre le bouquin et de le lire. Puis en plus, il y a des belles illustrations en couleur, s'il vous plaît. Et c'est très, très facile à lire.
Et l'éditeur, comment que ça...
Attends,
peut...
je vais le dire, ça. Et vous me bousculez, là. Il y a des aplats en couleur qui permettent de voir les additifs, les avantages, les inconvénients, les usages autorisés. Par exemple, le 476, qui est du polyrhizonylate de polyglycérol artificiel, peut être allergisant, parmi les inconvénients. Autorisé dans les vinaigrettes et assaisonnements allégés, matière grasse à tartiner et chocolat. J'espère qu'ils ne le mettent pas en même temps. Parce que... Bon. C'est bien fait.
Vous savez que la nourriture collective, la nourriture industrielle, c'est la nourriture de demain. Et forcément, que tous les restaurants que nous connaissons vont les uns après les autres au cours des années qui viennent fermés parce qu'ils ne seront pas en conformité avec la législation. La bouffe sera faite dans des grands centres collectifs dans les périphéries et sera livrée dans les petits restaurants italiens, machin, etc.
Il y a déjà des groupes qui le font, hein. On ne va pas dire de nom ici, mais bon, il y a des restaurants de chaîne.
Vous invite quand même à faire attention au E131, 132, 133, c'est facile à retenir, parce que c'est bleu patenté 5, colorant bleu artificiel, allergisant, voire cancérigène.
Oui.
E132, indigotine, toxique, voire cancérigène chez
l'animal. Tout ce qui est bleu est dangereux.
Et E133, surtout les contextes.
Écoute, Michou, j'espère.
Et E133, bleu brillant FCS, suspect d'être cancérigène. Donc si vous voyez 131, 132, 133, passez votre chemin, jeune homme.
Tout ce qui est colorant dérivé de l'acide azoïque est toxique, potentiellement toxique.
Les additifs alimentaires, un mal nécessaire, du docteur Jean-Claude Oudret aux éditions Médicis. Merci docteur. Et puis,
ça coûte combien?
10 euros, je crois. Non, c'est pas ça. Un peu plus.
Non, 17 euros.
17, pardon, excusez-moi.
17 euros, 50. Oui.
17.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Revenez nous voir quand vous aurez un nouveau livre.
Je fais une série chez Solar. J'en suis à 10 titres. Alors, si vous voulez, je peux venir 10 fois.
Pas de problème. On a toujours plaisir à vous recevoir parce que vous êtes un joyeux compagnon.
Ah oui,
voilà.
Merci.
Merci beaucoup. Ce qui n'empêche pas le sérieux de votre, sacerdoce. Oui, c'est pratiquement un sacerdoce, la médecine.
Docteur Ouvret est un mec extrêmement sérieux, même si c'est un joyeux compagnon.
Les auditeurs sont revenus sur l'émission qui veut gagner des millions. Alors on vous dit... D'abord, quelle joie de vous écouter, c'est une auditrice.
Bon, ça, jusque-là, ça va.
La présence de Bernadette Chirac à l'émission, qui veut gagner des millions, paraît fort déplacée au regard des incroyables dépenses qu'elle s'autorise tant à l'Élysée que lors de voyages privés dans des hôtels les plus chers du monde.
Celle que vous avez pris pour Mergot, c'est sympa.
Non. Une autre auditrice vous dit, effectivement, le marquis a raison, c'est bien Michel Bernier, et non Isabelle Mergot. Mais non.
La fille du professeur Choron.
Non. C'est pas elle. Moi, j'ai écouté aussi. Hein. Alors, Michel Bernier, elle est-elle passée avec Mimi Mati? Et elles n'ont pas eu cette question. C'est bien Isabelle Mergot.
Ah ben voilà.
Suintante, charmante, rigolote, parfaite.
Le marquis a un coup de cœur pour Isabelle Mergot.
Je crois qu'elle était avec Ruquier.
À propos de
la parfaite du subjonctif. Okay, alors, elle disait, mais si, je ne sais plus si c'est Miss ou
bon,
Fils.
Bon, on n'a plus de temps.
Une seconde. Elle disait, mais si, ça me sonne très bien à l'oreille.
Ah ben, c'est bien.
Voilà.
Bon. Asseyez-vous, Michel, vous avez quelques minutes pour nous dire tout le bien que vous pensez de notre radio.
Dans le micro de préférence.
Si vous voulez être crédible, nous dit une auditrice canadienne, vous devriez vérifier vos sources. Corneille vient du Rwanda, où je dis Bujumburi, Bouboula, c'est tout ça, Rwanda, est citoyen canadien résident à Montréal depuis 94 ou 95 et payant ses impôts au Canada, tu parles, il vient juste pour présenter des spectacles en France. Oui, c'est vrai, mais si je ne me trompe pas, il a commencé par venir en France où il avait été adopté par une famille française avant de trouver probablement que le système fiscal était plus avantageux.
Il est tout simplement un citoyen de la télévision.
Il a bien raison, d'ailleurs, au Canada.
Ça ressort mieux.
Merci docteur, à bientôt.
Au revoir.
Alors Michel, vous êtes venu il y a 15 jours, 3 semaines.
Pour
présenter votre projet
d'installation
à la campagne.
Et vous m'avez téléphoné en me disant que vous vouliez venir pour faire un point rapide et remercier les auditeurs qui, semble-t-il, très nombreux, vous ont prêté l'oreille.
Exactement. Je remercie très vivement les auditeurs qui m'ont très souvent écrit et téléphoné pour s'intéresser au mouvement que je lançais, c'est-à-dire le mouvement néo-paysan de tradition. Et j'en étais d'abord très heureusement surpris, et je remercie la radio de Monsieur Serge Becquèche, la radio de Courtoisie, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser directement à ses auditeurs. Alors tout d'abord, je voudrais relire un message qui avait été envoyé la dernière fois par un monsieur qui a 45 ans, un bout de terrain en Lozère et 6 enfants, qui est abonné à Libre Journal et qui le lit régulièrement. Alors comment de Lozère pourrais-je assurer les études de mes enfants et les financer donc ces études? Alors j'avais répondu un petit peu abruptement, et s'il est à l'écoute, je m'en excuse. Effectivement, moi je suis parti sur un point de vue néo-paysan, à savoir que les familles devaient s'installer sur les terres et ensuite les cultiver pour en vivre et pour sortir de cette société qui est particulièrement faisable. Et à propos de la Lozère, justement, ça me rappelle un souvenir enchanté des séjours que j'y ai fait il y a déjà longtemps, il y a un demi-siècle, exactement à Saint-Maurice-de-Ventalon, qui se trouve entre Genolac et Florac, en passant par Pont de Montvert. Et cette région est admirable. On disait que c'était une région pauvre. Évidemment, c'est pas une pleine abbaye de l'abri, mais la montagne. La montagne y est splendide, l'air y est parfaitement pur, et Saint-Maurice-de-Montalon se trouve à 900 mètres d'altitude, presque 1000 mètres plus exactement. Et j'ai conservé un souvenir, encore une fois, émerveillé, et j'ai vu les derniers paysans quitter la terre. J'ai vu notamment une famille où il y avait une femme d'environ une cinquantaine d'années avec 3 enfants, 2 fils et une fille. Et ils avaient 2 vaches et ils vivaient sur leur terre. C'était des seigneurs, ce n'était pas des miséreux, c'était des pauvres. Ils étaient pauvres, mais ils vivaient sur leur terre de façon indépendante. Et ceci était absolument, pour moi, c'était quelque chose d'admirable. Alors, il est certain que ce monsieur qui a six enfants et qui se retrouve devant la difficulté de leur donner de leur payer des études, je ne sais pas où il habite, je ne sais pas s'il habite vraiment en Lozère, s'il est seulement en villégiature là-bas ou bien s'il y habite en permanence, il répond exactement au désir que j'ai formulé, à savoir de fonder une ferme plutôt que d'envoyer des enfants dans des lycées qui vont ensuite aller dans les villes et que faire dans les villes. Nous savons ce qui s'y passe puisque nous y sommes. Alors donc ils veulent bien m'excuser pour ma démarche un peu abrupte et qu'ils veulent bien m'écrire à l'adresse du mouvement néo-paysan de tradition qui est le suivant, le refuge 77 540 Bernay BERNAY Ambry et le téléphone c'est le 01 64 25 61 57. Voilà donc ce que je voulais dire en gros. Une fois que j'ai fait mes remerciements, que j'ai rectifié mon jugement par rapport à ce monsieur de Lozère, eh bien j'ai tout dit, je n'ai plus rien d'autre à dire.
C'est gentil. Vous reviendrez nous voir, nous parler de votre projet. Et je signale que vous en parlez aussi dans le Libre Journal version papier.
Le Libre Journal version papier.
Oui.
Mais justement,
vous l'avez sous les yeux.
Mais justement, c'est fantastique parce que j'ai sous les yeux le numéro 368. Non, mais les gens vont croire qu'on répète notre numéro, mais pas du tout. C'est une coïncidence extraordinaire. Alors Conque, naturellement, le glorieux Conque à la une, mais je ne décris pas le dessin. Tant pis pour ceux qui ne se procureront pas ce journal. On a devancé quand même. Comme la présidentielle va être peut-être anticipée, nous on a devancer nos confrères, la plupart de nos confrères, et on décrit en long, en large et en travers la situation médicale et mentale du président de la République qui donne à prévoir effectivement une présidentielle anticipée. On a une double page avec plein de caricatures extrêmement marrantes, sélectionnées par Serge de Beketch lui-même de sa blanche main sur la razzia gauchiste en Amérique latine. De brosser le chef. Non, mais mon vieux, je tiens à mon job. Hein. Donc la présidente Bachelet, les présidents Chavez, Morales et Lula, qui sont qui virent tous à gauche de plus en plus. Voilà.
Samba, Morales et Lula.
Et voilà. On n'a pas voulu rester à l'écart de la tonton-latrie. Et donc, voilà, oui, exact, presque vous brûlez. Et donc, on revient sur les grands moments du règne, comme par exemple l'attentat de l'Observatoire. Nos jeunes auditeurs et nos jeunes lecteurs vont en apprendre. Voilà. Alors, l'agression dont a failli être victime le divin marquis jeune au lendemain du réveillon, je n'en dis pas plus. C'est pour ceux.
Il a failli porter le chapeau.
Eh oui. C'est pour ceux qui et un bon truc pour écouter à l'œil les radios par satellite. Je devrais peut-être pas en parler sur cette antenne, si. Mais si, bien sûr.
Ça, c'est...
Voilà. Et on a une chroniqueuse très distinguée, très provinciale, qui a découvert Énergie et qui la recommande à tous nos lecteurs. Encore une fois, ceux qui se procureront le journal sauront pourquoi. Alors, ça s'appelle le Libre Journal, c'est le numéro 368. Et si on veut se procurer ce numéro comme un spécimen, on envoie 5 € ou un carnet de timbres. Si on a enfin compris, et je m'adresse plus particulièrement à ce monsieur visiblement cossu et prospère qui m'a dit à la sortie, non, pas lui, qui portait 3 enfants sur 2 bras, sur chaque bras, à la sortie de Notre-Dame des Armées à Versailles, qu'il allait prochainement s'abonner, si du moins son gouvernement lui autorise. Alors j'espère que c'est pas le gouvernement de la France dont il parlait, mais de sa charmante épouse qui m'a confirmé au téléphone tout à l'heure qu'elle l'y autorisait. Donc tous les gens comme lui qui sont perpétuellement sur le point de s'abonner, je leur dis, on l'a expliqué plusieurs fois récemment, on est sur la corde raide, il faut maintenant prendre papier, crayon et noter l'adresse et inscrire 110 € sur un chèque à l'ordre de SDB, 4 places France List, 75 010, Paris.
Alors, je donne la parole à un auditeur, parce que ça met une petite note de gaieté à propos de nourriture et d'alimentation. Cet auditeur nous dit, connaissez-vous ce vieux proverbe polonais, boire ou conduire, de toute façon, on s'en fout, on n'a pas de voiture. Voilà. Monsieur Carme, bonsoir. Monsieur Touris, bonsoir. Je vais demander à Michel de laisser sa place à Monsieur Touris, parce qu'il a besoin d'un micro, étant donné qu'il va causer dans le poste.
Et la chaise aussi, merci. Si possible. Voilà. Ah, mais dis donc, Serge, il y a une descente de police à toutes les émissions,
oui,
maintenant.
Alors, il faut quand même que je raconte...
Est-ce qu'on a raconté à l'antenne, la dernière?
Que je raconte en deux mots que...
Non, mais on est persécuté.
Pendant l'émission, la semaine dernière, on a vu arriver dans la cabine technique derrière Franck. Moi, je les ai vus arriver. J'ai dit, c'est lui qui vient de chercher. Pas du tout. Il y avait un quarantier de policiers qui a déboulé. Et alors, enquête faite, pas par eux, mais par moi, j'ai appris que c'était parce que quelqu'un leur avait téléphoné en disant, vous devriez aller à Radio Courtoisie. On entend dans leur bureau, ils doivent être en train de torturer un enfant. Non mais c'est vrai en plus, c'est hallucinant. Et alors, les mulets se sont dérangés, ils ont visiblement que ça à foutre, hein, s'assurer qu'on n'était pas en train de torturer un enfant pendant l'émission. Quoi.
Le technicien a pas mal réagi, je crois que ça mérite d'être cité sa réponse.
Oui, il a dit non pas ce soir.
Naturellement, les lecteurs du Libre Journal écrit sont au courant de tous ces détails depuis une semaine.
Bien sûr.
Mais enfin, on s'abonne si on veut.
Alors, il nous reste très très peu de temps, messieurs, je suis désolé. Mais il y a eu des difficultés automobilistiques, j'ai l'impression. Donc je vous ai demandé de venir ce soir pour nous dire ce que vous pensez des commentaires qui ont été faits sur les événements les émeutes de novembre et les bilans qui en ont été tirés. Est-ce que à la base, dans la police française, on pense et on dit et on a remarqué les mêmes choses qu'au sommet?
Vous connaissez, je crois, la réponse. Il est certain que de toute façon, d'ailleurs, on a réagi et la dépêche a été reprise, hein, dans pas mal de presse. Le bilan, déjà, il faut savoir que c'est un satisfecit général pour le ministère. Alors, il se satisfait finalement d'un véritable fiasco. Donc, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il a encore mis la barre un peu plus haut. C'est-à-dire qu'il se contente tout à fait d'un plancher extrêmement élevé de violence urbaine. Ça semble tout à fait normal et il est a priori il n'y a pas actuellement de politique qui va être menée pour revenir en arrière, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était 80 véhicules par jour, maintenant si ça doit être 400 pour la Saint-Sylvestre, 600 c'est peu importe en fait.
Est-ce que vos adhérents vous disent ce qui est rapporté par les médias correspond à la réalité ou ne correspond pas du tout à la réalité? Comment ils voient, eux qui sont sur le terrain, quand ils sont en tant que policiers, est-ce qu'ils retrouvent en tant que téléspectateurs ce qu'ils voient sur le terrain en tant que policiers?
Bon, évidemment pas. D'ailleurs, il y a une telle distorsion que la plupart des collègues ne lisent plus la presse.
On va s'abonner au Libre Journal quand même, parce que... enfin, on peut pas... Hein, qu'est-ce que vous voulez je vois que vous lancez une association FF... Je vais essayer de prononcer correctement parce que FF, Femme Flic, ça s'appelle. Vous trouvez positif qu'il y ait des femmes dans la police en uniforme ou dans la rue comme ça? Ça vous paraît justifié?
Justifié du simple fait de la parité, oui, pourquoi pas, l'accès à la fonction publique.
Moi, je trouve que ça mobilise un peu les hommes qui sont obligés de protéger leurs collègues.
Attention, ça coûte 3000 euros le premier accro contre la parité et la dignité de la femme, Serge.
C'est parce que je respecte leur dignité que je voudrais mieux les voir autrement qu'en uniforme.
Sans parler de parité, excusez-moi quand même, je m'en fous, alors là je veux bien répondre devant les tribunaux. On voit des pots à tabac qui ont des boîtes de lustucru sur la tête qui, comme des colibris, emmerdent tout le monde avec leurs sifflets à tous les carrefours, où c'est encore plus encombrées quand elles sont là. Si c'est ça la féminisation.
Des filles qui font la circulation.
Ouais, mais si c'est ça la féminisation de la police, c'est n'importe quoi. Puis toutes ces périparcmétriciennes là qui nous emmerdent à longueur de journée, c'est pas ça la féminisation de la police.
En plus, vous en foutez, vous n'avez pas de voiture. Qu'est-ce que vous nous racontez là?
Non, mais j'ai des copains grand nom. Et je connais quelques femmes flics de haut grade, c'est des jolies femmes. Mais celles-là, on les laisse dans les bureaux aux flûtes.
C'est vrai qu'il ferait mieux de les monter.
Véronique Jeunesse à la circulation, alors.
Ouais, ici, il y a quand même, pas une hostilité, mais enfin une réserve à l'endroit. Mais vous créez donc une association spéciale pour ces dames.
Tout à fait, parce qu'elles ont justement des problèmes spécifiques, c'est-à-dire que dorénavant, en fait, elles ont un mal absolument énorme à exercer leur fonction dans les cités dites sensibles, tout simplement du simple fait qu'elles sont une femme et non pas fonctionnaire de police, en fait. Hein, c'est véritablement la femme qui est visée, et ça génère beaucoup plus de problèmes, il est vrai,
que
ça n'en règle. Mais ça c'est évident, et bien évidemment, dans ces quartiers-là, on passe plus de temps à protéger la collègue féminine qu'à travailler. Et c'est bien pour ça qu'on monte cette association de manière à ce que cette situation
intolérable pour dégager cesse, les femmes quoi. De la police, j'ai bien compris.
Peut-être pour agir pour sur ceux qui voilà, qui ne voudraient pas qu'elles soient là, voilà.
À 3000 euros.
Aujourd'hui, il faut bien remettre dans le contexte la réalité des quartiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une patrouille composée, on va dire, de 3 fonctionnaires de police, s'il y a un effectif féminin qui les accompagne, elle ne peut pas contrôler une identité alors qu'elle a tous les pouvoirs au même titre qu'un homme pour contrôler, sous prétexte qu'elle est une femme, puisque la vision de la femme dans les quartiers a été complètement tronquée. La femme n'a pas le droit de parler aux hommes, elle n'a pas le droit de s'exprimer, même si aujourd'hui elle a un uniforme, on va lui dire t'es une femme, moi c'est pas toi qui me contrôle, c'est ton collègue, toi tu me parles pas parce que t'es une femme. Aujourd'hui ça, nous on ne peut pas l'accepter, c'est véritablement la République qui bafoue. Il n'y a aucune réaction de la justice sur ces faits-là, et le but de cette association c'est de pouvoir dénoncer ça et pouvoir aussi représenter nos collègues féminines en justice quand elles sont victimes de ce type d'agissements qui sont complètement à l'encontre des valeurs défendues par l'État français.
On vous fera revenir plus longuement parce que là on a été bousculé par le fait que je voudrais simplement signaler que vous publiez une petite revue,
exact,
un petit journal,
un trimestriel,
qui est pas mal fait du tout d'ailleurs. Il s'appelle Syndicat Action Police, ça simplifie la lecture.
Que vous avez un petit site internet.
Vous parlez du rappeur Richard Makela, alias Monsieur R, qui qualifie de prophète Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda. Et pour lui, dites-vous, le policier est un putain de flic de fils de pute. Alors, ils appellent ça du rap culturel. Moi, je veux bien. Donc, vous avez porté plainte contre lui. Et la justice, ce qui est incroyable, a fixé une ordonnance de consignation de 1000 euros. C'est-à-dire que, alors que normalement il ne devrait pas y avoir de consignation, enfin c'est tellement évident que ce type est un voyou qui doit.
Oui, effectivement, enfin bon, au niveau judiciaire, enfin, c'est bref. Simplement pour éviter soi-disant les plaintes farfelues. Vu l'objet de la plainte, bien alors, évidemment.
Alors, le site internet c'est actionpolice.com et le nôtre c'est francecourtoise.info, n'est-ce pas, Serge?
Oui, c'est ça, francecourtoise.info. Et puis, est-ce qu'on peut recevoir cette revue?
Oui,
est-ce
bien
qu'on
sûr.
Peut, alors, question encore plus autre que grenu, est-ce qu'on peut adhérer à votre syndicat ou être membre associé du syndicat?
On peut être membre
sans
associé.
Être.
Tout à fait, on peut tout à fait soutenir le syndicat, c'est-à-dire que.
Même les bonnes femmes?
Bien évidemment. J'entrerai pas sur les comptes à 3000 euros.
je crois que je vais pas le garder, celui-là. On va tous finir au dépôt.
Faut donner l'adresse alors.
Comment on fait?
Tout simplement, il est possible d'envoyer souvent un soutien financier à l'adresse du syndicat.
Vous donnez un macaron, quelque chose qui évite les contraventions?
On va peut-être le négocier, mais c'est trop la politique de la préfecture de police. Donc
4 Robert de Flair dans le 15e.
C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est ça.
Donc Action Police.
On peut adresser une enveloppe au titre d'Action Police, envoyer 4 rue Robert de Flair, 75015 Paris, et les personnes peuvent mettre le soutien qu'elles souhaitent par chèque, que ça soit 1 euro ou plus, elles seront.
Et elles recevront dans
nos. Pour une fois que c'est pas les curés qui demandent de l'argent.
Pour une fois, c'est la police, voilà.
La police avec nous. Merci, on se revoit dans.
Oui, sans quelques temps.
Merci beaucoup en tout cas de votre accueil.
Marquis, vous voulez pousser un coup de gueule avant de nous quitter?
Je vais pas vous quitter comme ça.
2 minutes.
Mais 2 minutes, c'est vite fait. Tout le monde est au courant et suit l'actualité espagnole où on voit que le gouvernement de gauche en Espagne est en pleine déliquescence. Le mariage des garçons, des filles, tout. Enfin. Pas entre garçons et filles, entre garçons, filles. Tout ça part dans tous les sens. Et là,
alors, ils n'obligeront pas les toreros à épouser les taureaux, tout ira bien.
Ah ben, allez savoir. Mais alors maintenant, il y a une nouvelle proposition qui a été déposée, qui a été reçue. Le groupe parlementaire ERC, Equera Republicana, a ouvert en décembre un débat au Sénat sur les titres nobiliaires. Le but est de supprimer à terme tous les titres de noblesse, y compris ceux de la famille royale. Un seul Espagnol conserverait son titre de prince des Asturies en raison de sa situation constitutionnelle d'héritier de la couronne.
Vous, personnellement, Marquis,
j'ai dans l'os, là, moi, bon, voilà.
C'est un scandale, parce que le Marquis n'est pas un descendant, mais c'est un ancêtre.
Bravo.
Et on va sortir les baïonnettes, hein, si ça se confirme.
On recommencera comme Napoléon, on ira chatouiller les oreilles des Espagnols. Merci d'être resté avec nous, ça vous fait preuve d'une belle patience, chers auditeurs. Je vais m'effacer maintenant pour laisser la parole à mon ami Bernard Anthony, et je vais demander au début de l'émission de Bernard Anthony à Victoria de bien vouloir lire quelques messages, dont un message du de Saint-Nicolas du Chardonnay,
le
vestiaire de Saint-Nicolas, qui a besoin de vêtements pour les pauvres gens qui ont froid. Alors, si vous avez, je le dis rapidement, mais elle vous donnera toutes les indications, Victoria vous donnera les indications, si vous avez des vêtements à donner, portez-les massivement au vestiaire de Saint-Nicolas, en bon état, pas déchiré.
Mais trop mauvais.
Maillot de bain et chemise hawaïenne, c'est pas vraiment indispensable. C'est plutôt, en ce moment, le côté pull et blouson et grosses chaussures et grosses chaussettes. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Bernard Anthony au micro qui remercie Serge de Bekech et qui, sans plus attendre, va passer la parole à Victoria pour des annonces importantes.
Des annonces qu'on n'a pas faites tout à l'heure. Alors, samedi prochain, 28 janvier, de 14h30 à 18h30, Philippe Prévost dédicacera Le Temps des Compromis et Un centenaire trompeur, 1905-2005, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Catholique pour les libertés économiques, CLE, Association de la loi de 1901, 5 rue du Frénois, Paris 16e, communique. Nous avons l'honneur de vous informer de la conférence débat qui aura lieu le lundi 30 janvier à 18h30, salle de l'ASIEM, appelée aussi Notre-Dame du Bon Conseil, 6 rue Albert de l'Apparent, 7507 Paris. Monsieur Philippe Prévost, docteur ès-lettres et historien, traitera le sujet suivant, un centenaire trompeur, 1905-2005. Participation aux frais, 10 euros. Adhérents de clé, entrée gratuite. Samedi 4 février à 16h45, dans la salle de conférence située 38 rue Ribera, Paris 16e, M. Nicolas Lecaussin, rédacteur en chef du mensuel Vie civile, propose sous le titre « L'anti-américanisme, idéologie et connaissance inutile » de nous faire part de ses observations autour du conflit d'opinion qui dissimule derrière un écran teinté d'anti-américanisme primaire le refus opposé par les tenants de l'État-providence à reconnaître l'impasse où cette formule portée à l'extrême semble conduire. Entrée libre. Alors, Vie civile est la publication mensuelle de l'IFRAP, Institut français pour la recherche sur les administrations publiques. Nicolas Lecaussin est en outre l'auteur d'une étude sur l'état de l'économie parue en novembre, passée chez Plon sous le titre « Cet état qui tue la France ». Et puis, je complète alors ce qui a été dit tout à l'heure pour le vestiaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. Les dames responsables de ce vestiaire lancent un appel à tous. Depuis le début de l'hiver, elles ont distribué aux pauvres le stock de vêtements dont elles avaient la charge. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Donc elle remercie toutes les personnes qui pourraient déposer à l'église salle des catéchismes, des vêtements d'hommes, des couvertures et des duvets. 25 rue des Bernardins, Paris 5e, métro Maubert Mutualité. Voilà, c'est terminé.
Merci Victoria. Alors, nous sommes ce soir dans le studio avec Jeanne Smith, directrice de Présent. Nous avons Richard Haddad, des éditions Godefroy de Bouillon et militant de toutes les bonnes causes, et notamment de Chrétienté et de Solidarité, et de la Griffe aussi. Nous avons Louis Chagnon. Louis Chagnon est un professeur d'histoire. Il a été persécuté pour avoir enseigné la vérité à ses élèves sur l'islam. Il n'était pas, semble-t-il, coraniquement correct. Nous avons Maître Valran de Saint-Just, il est le vice-président de l'AGRIF et il est le, en quelque sorte le principal avocat conseil de la DRIF, ce dont je lui suis toujours très reconnaissant. Alors, Jeanne Smith va interroger, puisque cette émission de la réplique consiste, comme elle, cela va de soi, consiste à répliquer. Alors, Jeanne Smith va commencer à poser quelques questions, et puis ensuite, je prendrai le relais. Alors, je crois que Jeanne, vous allez interroger. Qui donc ?
Alors, nous allons commencer par Louis Chagnon, parce qu'il faut bien reconnaître que l'islam, la question de la présence islamique en France est tout à fait au cœur de notre actualité, et il y a quelque chose qui vous a beaucoup frappé, Bernard Anthony, et vous en avez même fait la une du prochain numéro de Reconquête. C'est une déclaration de Jean Glavany, bon laïc, comme chacun sait. Alors un bon laïc, c'est quoi, monsieur Louis Chagnon ?
Ah ben justement, c'est bien ce que j'aimerais savoir. Donc dans le journal
plus près du micro, Louis Chagnon.
D'accord. Dans le journal des Hautes-Pyrénées du 21 décembre 2005, monsieur Glavany...
La Nouvelle République des Pyrénées.
La Nouvelle République des Pyrénées, bien. Monsieur Glavany nous parle de la laïcité, et puis vous fêtez donc le centenaire de cette loi, et il considère donc que la laïcité est une valeur terriblement d'actualité. Très bien. Mais pour lui, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Eh bien, je cite Monsieur Glavany, « C'est pourquoi je dis aujourd'hui être un bon laïc, c'est encourager la construction de mosquées en France. » Et plus loin, donc, il donne le mode d'emploi. Comment construire les mosquées ? Eh bien, comme on a fait dans les années 20 pour la mosquée de Paris, la ville de Paris a financé les lieux profanes, le hammam, la bibliothèque, mais elle n'a pas financé la salle de culte. Très bien. Donc, pour M. Glavany, être laïc, c'est construire des mosquées. Alors, moi, j'étais un grand naïf. Je pensais que la laïcité, c'était être indépendant, c'était que l'État soit indépendant, donc, des religions. Mais, visiblement, c'est pas du tout le cas. Alors, pour M. Glavany, je suppose qu'être laïc, c'est pas construire des églises, ni des temples, ni des synagogues, mais c'est construire des mosquées. Alors, financé, en partie, par les deniers publics. Donc, je conseille à tous nos concitoyens donc de mettre la main à la poche pour construire les mosquées. Voilà.
Avec quel résultat, Louis Chagnon ? Vous pensez que ça va faire du bien à la France, ça ?
Je ne pense pas. Non, je pense que je ne suis pas pour la construction de ces mosquées. On sait ce qu'on y enseigne. Et on y enseigne donc un islam qui n'est pas du tout un islam de paix et de concorde, comme M. Sarkozy l'affirme. Il n'est qu'à lire le Coran et les appels aux meurtres donc, qui s'y trouvent. Tuez-les partout où vous les trouverez, j'ai un trou là, pardon.
Non, oui,
les incrédules, les transgresseurs, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ça c'est une religion de paix et d'amitié, il n'y a pas de problème. Alors, je conseillerais donc à M. Sarkozy et à M. Glavany de lire le livre de Bernard Anthony.
Merci.
L'islam sans complaisance, qui pourrait les mettre un peu au courant de ce qu'est vraiment cette religion, en fait, cette politique religieuse qu'est l'islam. Et j'aimerais demander donc à Bernard Anthony pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre.
Merci Louis Chagnon. Il faudrait demander à Richard Haddad pour ajouter pourquoi il l'a édité. Parce que finalement, pourquoi j'ai écrit ce livre alors qu'il y a beaucoup de très bons livres sur l'islam, dont je fais d'ailleurs une liste. J'ai livré une bibliographie qui permet de compléter, parce que je crois qu'il y avait une nécessité pour un ouvrage équidistant de deux types de travaux. Il y a en effet de bonnes plaquettes sur l'islam, mais qui sont souvent des synthèses un peu rapides, un peu hâtives. Et puis il y a aussi les ouvrages des scientifiques, des Hurvois, des Sourdelles, qui sont de grands scientifiques, et j'en connais. Il y a aussi des ouvrages très fondamentaux de réflexion, comme celui qui m'a beaucoup impressionné, beaucoup formé, le père Antoine Moussali, hélas disparu, qui était un Français d'origine libanaise, comme Richard Haddad, et qui connaissait admirablement l'islam. Mais il y a aussi beaucoup de livres fatra, je dois le dire, des livres quelquefois bien intentionné mais décousu. J'ai voulu faire un livre d'abord sans haine, je le dis tout de suite. Quand on est chrétien, on ne peut pas haïr. Et ce n'est pas un livre qui est hostile aux musulmans. Les musulmans, nous les aimons, le père de Foucault les a aimés, il y a de tout chez les musulmans comme partout, nous pouvons reconnaître combien quelquefois ils ont l'attente de Dieu, un sens de la transcendance. Donc, mais c'est un livre pour faire le point sur l'islam, le livre de l'honnête homme. Avec ça, on saura ce que Mahomet le prophète a reçu, ce qu'il a enseigné, qui il était, quelle est son histoire, et c'est fait pour que notamment les hommes politiques ne professent pas les bourdes comme Glavany, dont je rappelle qu'il est ancien ministre de l'agriculture. Il sévit dans mon département des Hautes-Pyrénées, puisque je suis né à Tarbes, et à la une de Reconquête, qu'on pourra trouver dès la semaine prochaine, ou en tout cas dans quelques jours au Centre Charlier, on voit Glavany sème, mais aujourd'hui ce ministre de l'agriculture qui n'a pas permis aux paysans de récolter beaucoup, donc je préfère mettre la charia avant les bœufs. Il sème les minarets, c'est la une de Reconquête, et hélas, je le dis à M. Glavany, on récoltera un jour en France les fruits amers du Liban et des Balkans.
Oui, Richard Haddad, vous qui avez édité l'islam sans complaisance, et il faut bien dire que c'est un acte de courage pour les éditions Godefroy de Bouillon. Aujourd'hui, s'en prendre à l'islam, c'est éventuellement s'exposer quand même à l'accusation d'être discriminateur. Est-ce que vous avez le sentiment, en ayant publié cet islam sans complaisance de Bernard Anthony, d'avoir participé à une quelconque discrimination?
Non, absolument pas. Vous savez, ça fait 12 ans que je travaille dans l'édition, que j'édite des livres. Tous plus ou moins ne plaisent pas à ce qu'on appelle le politiquement correct, la police de la pensée. Mais enfin ça, j'ai décidé depuis longtemps de passer outre et de faire mon métier de façon indépendante et voilà, sans prendre en compte ce que pensent les uns et les autres. Moi, j'étais enthousiaste de publier ce livre parce que il manquait en fait dans les librairies un livre de ce genre. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit Bernard, effectivement, il se trouve de tas de livres sur l'islam, mais il y a une méconnaissance de l'islam en France, et encore plus chez les hommes politiques, ce qui peut paraître contradictoire. Que monsieur tout le monde ne connaisse pas grand-chose de l'islam, c'est un fait. Mais même chez les hommes politiques, il y a une méconnaissance totale. Et effectivement, comme l'a dit Bernard, comme les livres, la plupart du temps, sont ou trop scientifiques ou trop succincts, ce n'est pas vraiment... Le livre de Bernard, ce qui est intéressant, c'est que ça dit l'essentiel de ce qu'on doit savoir sur l'islam.
Et de façon agréable et synthétique.
Exactement. Oui. C'est ce que d'ailleurs me demande, parce que moi je suis en contact avec les gens, que ce soit les libraires ou les lecteurs qui achètent le livre en direct. La première question, c'est est-ce que c'est facilement compréhensible ? C'est ça le point fort du livre, c'est que c'est accessible à tout le monde, n'importe qui peut le comprendre, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des religions, etc. Et donc il y a une demande très forte sur ces sujets-là, parce que l'actualité effectivement fait qu'on s'intéresse de plus en plus à ce que l'on ne connaît pas, et qui tout d'un coup, les gens découvrent tout d'un coup que ce qu'on lit l'islam, il y a 20 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, ce n'était pas un sujet d'actualité. Aujourd'hui, les faits, l'actualité, ce qui se passe en France fait que tout d'un coup, on se dit mais qu'est-ce que l'islam finalement ? On ne sait pas, hein, on a qu'un aperçu très, très bref. Et il y a une demande, et les gens sont souvent en sumière, mais j'ai pas très bien compris. Bref, pour conclure, ce livre-là est facile à lire, et c'est ça qui m'a poussé. Alors, Bernard a fait... avant le dictionnaire de la réplique et un petit livre qui s'appelle Le génocide des chrétiens d'Orient, qui était un peu précurseur, parce que c'est un peu c'est un sujet qui
connexe, oui, bien sûr,
et qui avait aussi été très demandé, donc ça veut dire qu'il y avait cette demande.
Alors très demandé, où est-ce qu'on le demande précisément?
Au Centre Charlier, on peut le demander. Alors évidemment, le mieux, c'est de le commander directement au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Numéro de téléphone pour tout renseignement, 01 40 51 74 07. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, peuvent le commander dans n'importe quelle librairie.
Alors c'est la réplique, pour le coup, à tous ceux qui souhaitent une implantation visible et minarétée de l'islam en France. Vous vouliez, je crois, intervenir à ce sujet, Maître Valrand de Saint-Just.
Oui, un instant pour dire à nos auditeurs, qu'ils le savent, mais pour leur rappeler que l'argent public ne peut en aucun cas servir à la construction d'une mosquée. C'est strictement interdit par la loi de 1905, dont il faut éventuellement se servir pour empêcher ce genre de dérive de la part de municipalités mal intentionnées. Et il faut que les auditeurs mettent ça en œuvre s'ils le veulent.
Louis Chagnon, vous aviez également un commentaire.
Je voulais dire d'abord que le livre de Bernard Anthony est un livre très pédagogique, donc est très accessible, comme Bernard Arnault l'a dit. Et Bernard Anthony donc, a raté sa vocation, il aurait pu enseigner.
Comme est arrivé
à, à l'éducation nationale, je pense qu'il aurait eu des problèmes aussi comme moi. Mais c'est un livre très, très facile. Et qui en plus donc a une bibliographie intéressante, il y a un lexique, c'est très très pratique.
Il est très agréable à lire, je le confirme. Je me retourne vers Richard Haddad encore, qui avec les éditions Godefroy de Bouillon a d'autres projets qui ne sont pas si éloignés de cette affaire de l'islam. Parlez-nous un petit peu de Bainville.
Oui, alors effectivement, c'est le 6 février prochain sera le 70e anniversaire de la mort de Jacques Bainville. Et donc les éditions Godefroy de Bouillon ont toujours été attachées au personnage de Jacques Bainville, puisque les premiers livres que j'avais édités lorsque j'ai commencé à travailler dans l'édition, c'était des livres de Jacques Bainville. Et donc ce 70e anniversaire, c'est une occasion pour nous de relancer un peu Jacques Bainville, qui est très connu et pas connu, en fait très connu de pas mal de gens, mais il reste beaucoup de Français qui l'ont oublié ou qui le connaissent pas, notamment les nouvelles générations. Alors très brièvement, l'intérêt aujourd'hui, parce qu'on peut me dire, mais quel intérêt aujourd'hui de rééditer un auteur qui est mort en 1936? Eh bien, l'intérêt, c'est que, bon, pour rappeler qui était Bainville, c'était un historien spécialiste des relations internationales, qui avait une rubrique à l'Action française de politique étrangère, élu à l'Académie française à partir de 1935. Alors, l'intérêt, c'est que Bainville était... ses analyses étaient lues par tous les hommes politiques de tous les bords, même républicains, et étaient même consulté par des hommes politiques républicains pour sa connaissance des relations franco-allemandes. C'était un grand spécialiste donc, de politique étrangère et spécialement des relations franco-allemandes. Il a écrit plus de 50 livres, notamment sur les relations franco-allemandes, sur Bismarck et la France, etc. Je passe là-dessus. Et donc son intérêt, c'est qu'il est toujours d'actualité, puisque alors lorsque ces livres sur les relations franco-allemandes sont d'actualité aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe dans les affaires européennes, les rapports entre la France et l'Allemagne aujourd'hui avec le reste de l'Europe, c'est intéressant de relire Bainville et de voir ce qu'il en pensait déjà à l'époque, et on se rend compte que tout ça est toujours d'actualité. Alors, l'œuvre de Bainville, c'est aussi son histoire de France, en 500 pages, qui est un exploit, puisque l'idée maîtresse qui a ordonné ce livre est de juger, je cite Bainville, là, c'est de juger la vie d'un pays selon les mêmes règles que la vie d'une famille, la famille française, principe de communauté, de corps intermédiaire. Et en fait, cette histoire de France qui va de la Gaule jusqu'au XXe siècle, en 500 pages, est une... Là aussi, c'est que ça se lit comme un roman, et ça, c'est une performance de Bainville. Elle existe aussi pour les enfants. Je passe sur ces autres livres. Nous avons pour cette occasion, nous ressortons à peu près une douzaine de ces livres.
Dont un qui est d'une brûlante actualité.
Voilà, exactement. Oui. Il y a l'histoire de France pour les enfants, Napoléon, sa biographie de Napoléon qui est très célèbre, l'histoire de deux peuples, donc la France et l'Allemagne, l'histoire de trois générations, Bismarck, les dictateurs, qui est un très bon livre aussi, qui est une analyse de ce que c'est la dictature et les dictateurs du 19e et du 20e siècle, les conséquences politiques de la paix dans lesquelles il prévoyait dès 1919 ce qui est arrivé en Yougoslavie récemment, ce qui est la Tchécoslovaquie, la Deuxième Guerre mondiale. Il a tout prévu dès 1919, il explique pourquoi. Et puis le dernier, effectivement, c'est Bonaparte en Égypte. Et là, on découvre un peu les erreurs de la France face à l'islam, l'incompréhension en fait des généraux français sur place qui ont cru vraiment que l'islam ce n'est qu'une affaire, on envahit l'Égypte comme on fait en Italie ou dans le reste de l'Europe. Et on voit là, pour l'anecdote, le général Menou qui se convertit à l'islam, qui se fait appeler Abdallah Menou, qui interdit à ses soldats de boire de l'alcool. Et l'ironie du sort, c'est que il sera le dernier général en chef en Égypte à se faire bouter par les musulmans à qui il a fait allégeance. Voilà.
Oui, donc tous ces livres seront disponibles aux éditions Godefroy de Bouillon. Oui. Et en outre, je crois que vous organisez un petit événement cette occasion.
L'événement, donc, ce sera au Centre Charlier, donc c'est sous le patronage du Centre Charlier. Ce sera la journée Jacques Bainville, le samedi 25 février 2006, à 10h30, au 70 boulevard Saint-Germain. Pour tout renseignement, il faut appeler le 01 40 51 75. 74-07. Il y aura là plusieurs conférenciers spécialistes de Jacques Bainville et de la politique étrangère de la France.
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le téléphone ?
Alors, 01 40 51 74 07. Ce sera le samedi 25 février.
Et une digne façon... Pardon. 70 boulevard Saint-Germain... 75005 Paris, c'est le centre Charlier, qui donc fêtera ainsi l'anniversaire de la naissance de Jacques Bainville. Il est mort.
Disparu il y a 70 ans.
Il y a 70 ans en février. Oui. Bernard Anthony.
Je suis très heureux de cette initiative, Jacques Bainville, parce que je crois que c'est un penseur essentiel, c'est un maître en histoire, et c'est surtout un maître en méthode, mais Richard Haddad l'a évoqué. Je voudrais revenir juste un instant à Jean de Lavagny. Jean de Lavagny, secrétaire d'État à la laïcité du Parti Socialiste, ancien ministre de l'Agriculture. Nous allons lui accoler donc cette citation historique construire la laïcité aujourd'hui, ça consiste à construire des mosquées. Je voulais simplement ajouter que de Lavagny, donc pour répondre à l'observation de Valerande Saint-Just tout à l'heure, dit ben, il y a un tour de passe-passe. Le tour de passe-passe consiste à financer pour les municipalités le culturel et pas le cultuel. C'est dire combien il ignore totalement ce qu'est l'islam en voulant conceptualiser ce qui serait culturel et ce qui serait cultuel. Mais je ne vais pas traiter de cela. C'est traité dans mon livre sur le fond. Mais de Lavagny est dans une tradition républicaine ancienne, et c'est ce que je voulais dire quand il y a là, parce que la faute de la France a été, pendant toute la Troisième République notamment, de mettre partout en place, dans l'Empire colonial, des administrateurs francs-maçons qui n'avaient qu'une volonté, privilégier la mosquée contre l'Église. Et le père de Foucault, qui est vraiment le saint pour notre temps, il faut remercier le pape Benoît XVI de l'avoir béatifié, le père de Foucault nous en avait averti, ces peuples seront chrétiens ou nous chasserons. Bien, de Lavagny n'a rien appris avec ses camarades chez vous, ses frères de loge, il continue à privilégier la mosquée et hélas, encore une fois, il porte en cela une responsabilité terrifiante.
Alors, je laisse quelques instants la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie, il y en a un qui nous signale un livre remarquable qui s'appelle Le vrai visage de l'islam, auteur Abdelkader. C'est un homme extraordinaire, nous dit cet auditeur, c'est même un saint homme. Et son livre est très clair. Donc,
c'est Jean-Pierre Al-Kader, pas Abdelkader.
Abdelkader, me dit le lecteur. C'est un berbère.
Non, c'est un de mes amis.
Et bien, c'est pas
bien.
Très bien.
Et donc, je tournais bien le livre et l'auteur. Et donc, il ne faut pas appeler Abdelkader, notre ami Jean-Pierre Al-Kader.
Eh bien, merci de cette
voilà,
précision.
Cet auditeur a raison. C'est un livre différent, du mien plus polémique, plus passionné. Mais Jean-Pierre Al-Kader est un homme d'excellente qualité.
J'ai vu ce livre quelque part, en effet. Alors, deuxième question, pourquoi vous en prenez-vous tant ce soir à l'islam ? C'est trop facile, car c'est un épiphénomène par rapport à l'immigration qui est le réel problème. Alors, ça va en fait nous amener à notre deuxième partie. Parce que si l'immigration est un problème, c'est bien qu'elle est culturellement trop éloignée de ce qu'est la France. Des Arméniens, des Portugais, des Italiens sont entrés en masse en France et ils n'ont pas posé de problème. Et donc, ça, c'est un peu la réponse que nous donnerons à cet auditeur de Radio Courtoisie. Mais celle de François Bayrou, et dont vous allez nous parler, Bernard Anthony, elle est tout autre. Lui, François Bayrou, qui passe quand même pour le catholique de service dans à l'UDF, eh bien, lui, il dit, il se bat contre les racines chrétiennes de l'Europe. Et il dit même cette chose extraordinaire, l'Europe n'est pas faite que de christianisme, Athènes nous a laissé la raison en héritage. Eh bien, oui. Allez-y, Bernard,
alors,
vous allez répliquer.
Je vais répliquer volontiers. D'abord, je réplique à l'auditeur que je ne m'en prends pas aux musulmans. Mais nous sommes confrontés au défi de l'islam face à notre décadence et je traite l'islam non pas comme une religion, mais ce qu'il est. Et que dit, je cite dans mon livre, Tariq Ramadan, coqueluche de nos médias, et Tariq Ramadan ne cesse de répéter, l'islam entre difficilement dans les limites de l'acception du mot religion. Pour Tariq Ramadan, eh bien, l'islam l'islam, elle est à la fois, je cite, religion, foi, loi, doctrine et mode de vie. Eh bien, c'est cela que nous sommes en droit de refuser, comme nous pouvons refuser le modèle communisme. Nous refusons l'islam en tant qu'idéologie. Voilà. Alors ensuite, la question qui vaut d'être débattue, je ne l'évacue point, de l'immigration et de l'islam. Écoutez, moi j'ai une expérience, parce que j'ai été un homme d'entreprise. J'ai intégré dans les entreprises dont j'étais le directeur des relations sociales, toutes sortes de gens, notamment des fils de harkis, mais aussi il y avait dans ces entreprises, comme il y en a un peu partout autour de nous, des gens d'origine très différente, qui font de très bons Français. À la sortie d'une de mes conférences, j'ai trouvé là des jeunes gens d'origine laotienne, bouddhistes, qui ont voulu parler avec moi. Leur amour de la France était stupéfiant. Ce sont des Français prêts à se battre pour notre pays. Alors je dois dire qu'il faut raison garder. Il y a des immigrés qui ont fait l'effort au cours des générations de s'intégrer. Ils se sont mis à aimer la France. Mais nous avons avec l'islam quelque chose de bien spécifique, parce que qui est la différence avec le reste de l'immigration, je dois dire, c'est le Dar el-Islam, c'est-à-dire la constitution d'un territoire de l'islam qui met en avant donc une notion supérieure, celle de l'Oumma, qui transcende toute patrie. Et voilà pourquoi je renvoie à mon livre, parce que je ne veux pas que l'émission ne porte que sur l'islam. Je crois qu'on n'a pas vu beaucoup dans les émeutes d'Asiatiques, de Polonais. Il est certain, alors je ne dis pas que tous les musulmans sont des émeutiers, je ne dis sûrement pas cela. Mais j'ai interrogé les sites islamiques, parce que vous voyez, je ne parle pas sans m'informer. On me traduit, et Richard Haddad notamment, les journaux de l'islam. Je ne dis pas que tous les musulmans, loin de là, sont des islamistes, mais il n'en demeure pas moins que il ne suffit que les éditeurs vérifient, que les auditeurs vérifient comme moi les sites nombreux islamouma.com et autres, et ils se feront une idée de ce qu'en effet Tariq Ramadan a raison quand il dit que l'islam n'est pas une religion, n'est pas principalement une religion. Alors ensuite, Beyrouth. Changeons, quittons l'islam, et j'en viens à la réplique que je voulais faire et que je ferai peut-être sur le fond dans l'excellent journal Présent, quotidien 5 jours par semaine dans les kiosques, 5 rue d'Amboise, 75002 Paris. La réflexion parue dans le Point de Monsieur François Beyrouth sur les racines chrétiennes de l'Europe. L'extraordinaire, c'est que Monsieur Beyrouth s'en prend à l'ancien ambassadeur d'Israël, Monsieur Barnavi, qui trouvait tout à fait normal que dans la Constitution européenne, il y ait une référence aux racines chrétiennes de l'Europe. C'est donc Monsieur l'Israélite Barnavi, le juif Barnavi, qui trouve normal cela. Barnavi est un homme intelligent, et Beyrouth dit « moi, je n'en voulais pas ». Et il évoque la diversité européenne, soit, bon, les héritages divers, et donc il dit « l'Europe, c'est tout cela ». Et de citer les catholiques, les protestants, les libres penseurs. Oui, nous le savons bien, Monsieur Beyrouth, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que d'abord, la tradition peut être critique, et que l'action de l'intelligence vise à trier ce qu'il peut y avoir de bon ou de moins bon dans le passé, mais qu'enfin, d'un simple point de vue sociologique, toutes nos catégories du vrai, du beau, du bien, du mal, nous ont été données par ces racines chrétiennes, elles-mêmes héritières, et c'est là qu'il fait de la confusion. Il dit, mais nous avons d'autres racines, grecques, latines. Mais bien entendu, ce qu'il oublie, c'est que les racines chrétiennes donc ont pris cet héritage-là, et que nos racines, on peut les symboliser, ça s'appelle Rome, Athènes et Jérusalem. Mais l'héritage gréco-latin nous a été amené par l'Église catholique. Il faut rendre d'ailleurs aux musulmans ce qui est aux musulmans. Il est vrai que Averroès a rendu un grand service. Nous ne l'oublions pas. La vérité ne se divise pas. Et donc, quelquefois, nous avons récupéré quelques œuvres grecques, et grecques uniquement, par le biais du monde arabe. C'est une autre histoire. Mais donc, Beyrouth, premièrement, là, donc, oublie cette chose. Ensuite, beaucoup plus grave. Il dit ceci, pour nous Européens, la religion, ce n'est pas une loi, c'est une foi. distinguo subtil, mais il oublie une chose, c'est que la religion, c'est aussi une loi, et cette loi, ça s'appelle la loi morale. La loi morale qui est claire, d'ailleurs, pour les juifs, pour les protestants, pour les catholiques, cette loi morale s'appelle le décalogue. Autrefois, on l'apprenait au petit catéchisme tout au moins, mais même les instituteurs y faisaient une allusion, les 10 commandements. Alors, Bérou, lui, veut déconnecter la foi de la loi. Alors, il se dit catholique dans le domaine privé. Mais non, monsieur Bérou, vous n'êtes pas catholique, parce que si vous êtes catholique, vous ne pouvez pas séparer la foi de la loi. La foi est claire, bien entendu. Et je développerai cela dans le présent.
Pas oui. Au sens de l'islam, hein, Bernard.
Non.
Le micro.
Oui.
Bien sûr,
c'est tout à fait différent de ce qui se passe dans l'islam.
Il y a dans le christianisme, d'abord, il y a au plus haut la charité, c'est Dieu, l'amour. Bon, mais cet amour n'évacue point la loi déjà donnée aux hommes sur le mont Sinaï de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tout simplement la loi naturelle. Alors, ensuite, Bérou va plus loin. Il dit « notre civilisation, c'est la séparation des réalités spirituelles, temporelles et politiques ». Non, séparation, c'est la distinction. Alors, effectivement, Valran, l'islam ne distingue pas. Et c'est là que c'est terrifiant. Quand on aborde la psychologie de l'islam, le Coran, les hadiths, surtout du prophète, on s'aperçoit là que, comme le disent les maîtres en islam aujourd'hui, que sont les frères Ramadan, il n'y a pas cette distinction. Mais, voyez-vous, je crois que nous avons une doctrine d'équilibre. La doctrine d'équilibre, c'est de ne vouloir ni la confusion, ni la séparation. Et je crois que la France s'ouvre aujourd'hui terriblement de ce qu'il n'y a plus, effectivement, de référence morale. Nous y reviendrons tout à l'heure, probablement avec Jeanne Smith.
Nous, c'est le rendez à César, mais aussi le rendez à Dieu.
Effectivement cela. Et donc, je répondrai plus longuement à Monsieur Bérou, mais je crois qu'il est atteint de confusionnisme. Je crois que... Alors, il veut séparer la conscience croyante et la loi de l'État. Il oublie, lui, qui invoque les traditions grecques, qu'il y ait la plus belle des traditions grecques. C'est celle d'Antigone. C'est la petite Antigone qui doit enterrer son frère selon la loi morale immuable. Et la petite Antigone, qui est pré-chrétienne, qui n'est pas chrétienne, elle résiste à Créon. Créon, c'est César, c'est l'État totalitaire. Et donc, Monsieur Bérou doit savoir que, justement, ce que nous ont donné nos racines grecques, c'est que l'État doit être au service du bien commun. L'État, ça n'est pas le monstre totalitaire que l'on nous bâtit aujourd'hui.
Racines chrétiennes, s'il y a bien un mouvement, enfin une organisation, un organisme en France qui défend ses racines, c'est la GRIF, c'est l'Alliance Générale pour le respect, contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. C'est bien ça l'identité de la France. Maître Valrand Saint-Just, vous êtes venu ce soir sur Radio Courtoisie parler un petit peu de votre action pour la GRIF, puisque vous en êtes l'un des principaux défenseurs. Vous êtes le principal avocat conseil de la GRIF. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, je crois.
Je voulais aborder 3 points particuliers de l'action de la GRIF, mais vous me permettrez un peu au départ, parce que je ne suis pas que l'avocat de la GRIF, je suis avocat tout court, et tout ce qui concerne l'institution judiciaire et la justice m'intéresse particulièrement. Je dois dire que j'ai été extrêmement ému, on peut même dire ému jusqu'aux larmes, par la vision des acquittés d'Outreau déposant à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et pas plus tard qu'hier encore, par la vision de cet Alain Maréco qui à nouveau a fait une tentative de suicide. Et même quand on a acquis un certain nombre d'expériences et que on sait que quelquefois les choses ne peuvent pas être ou toutes blanches ou toutes noires, on voit bien que cette affaire est le rassemblement de tout ce qui peut se faire de pire dans l'institution judiciaire. Nous devons dire que ce que disent les acquittés d'Outreau, c'est la vérité, et qu'il y a un grand nombre de petits Outreaux en France et dans la justice française. Même nous le savons, et Bernard le sait aussi, il y a des affaires qui nous touchent de près et qui sont un scandale absolument considérable, avec des juges d'instruction qui se comportent très très mal. Les prisons françaises sont une honte. Il y a des policiers, j'ai pas dit les policiers, des policiers, qui se comportent très mal et comme des brutes arrogantes, et il y a des juges qui sont sans scrupules, sans aucune formation, et qui sont uniquement préoccupés par leur carrière. Alors, le juge Burgot, puisque il faut prononcer son nom, je dis donc du mal de lui, mais encore, il va être confronté, c'est du jamais vu. Où est-on ? Il va être confronté la semaine prochaine ou dans 15 jours à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et on lui a dit vous aurez les gens que vous avez acquittés et qui ont subi ce qu'ils disent avoir subi et on les croit autour de vous pendant votre déposition. Mais c'est le cirque romain, c'est l'arène, il va pas en sortir vivant le malheureux. Et voilà ce qu'en 2006 on va faire à un juge d'instruction de français. Moi j'ai écrit d'ailleurs un petit texte et j'ai dit que ça ne devrait pas être ce juge d'instruction qui soit dans l'arène au Lyon, mais une charté de ministres, notamment des ministres de la justice, et on en a un peu ras-le-bol de cette justice. Alors j'ai été très frappé aussi, deuxième point avant d'aborder, si vous me le permettez, les affaires un peu plus particulières de la griffe, très frappé par ce communiqué tout à fait extraordinaire qui est sorti hier d'un certain nombre de condamnés à perpétuité de la prison de Clairvaux. Alors il faut savoir que la prison de Clairvaux est la centrale la plus dure en France. Je viens de dire que les prisons sont une honte en France et Clairvaux est vraiment extrêmement dure. Elle est réservée aux très longues peines et il y a un communiqué qui est paru. Comment est-il paru d'ailleurs hier? On en a parlé sur les radios et notamment à France Info hier après-midi. Hier soir et ce matin j'ai pas eu beaucoup d'écho. Mais voilà un certain nombre de condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, des très grands criminels qui ont écrit ce communiqué qui se termine ainsi, aussi parce qu'une société dite démocratique ne devrait pas se permettre de jouer ainsi avec la politique pénale visant à l'allongement indéfini des peines selon la conjoncture, l'individu ou les besoins particuliers, à choisir à notre mort lente programmée. Nous demandons à l'État français, chantre des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment pour nous tous la peine de mort effective. Ce sont certainement des grands criminels. Mais moi, je le redis, je suis ému devant cette lettre. Nous avons les noms de ces emmurés vivants comme ils se... Alors, je leur dis, adressez cette lettre, messieurs, adressez cette lettre à monsieur Robert Badinter. C'est lui qui a supprimé la peine de mort en France et c'est lui qui est responsable de votre malheur. Vous avez fait le malheur d'autres. Maintenant, c'est à votre tour, mais on ne peut pas vous souhaiter ce qui vous arrive. Et cela montre vraiment que cette institution judiciaire qui est pourtant le pivot d'un État qui est au centre d'une organisation sociale est extraordinairement malade, comme les autres organisations d'ailleurs de l'État français, et que nous pouvons être aussi émus qu'inquiets. Voilà ce que je voulais dire sur ces deux points-là.
Et j'allais dire, ce rétablissement d'une bonne justice est pleinement dans le combat de la griffe. Vous en êtes le vice-président, Valéry de Saint-Just. Bernard Anthony, vous en êtes le fondateur et le président. Avant de passer aux affaires qui sont actuellement pendantes, voulez-vous, Bernard Anthony, dire rapidement quelle est la philosophie de la griffe? Quels en sont les principes?
Oui, je voudrais dire ce qui a motivé la fondation de la griffe, c'était une indignation sur un fait particulier qui était celui de la condamnation d'une vieille dame de Montpellier qui cherchait un locataire chrétien et français et que pour cela on a traîné en justice. C'était pour moi une abomination et voilà pourquoi j'ai dit il faudra tout de même réagir parce que dans ce pays,
on en a marre,
ouais. Comme le dit Valéry de Saint-Just. Mmh. Et on en a toujours marre. Et je voudrais, avant de venir au principe de la griffe, dire, vous voyez, l'actualité immédiate. Ce matin, à Orange, où je serai d'ailleurs demain soir, salle Alphonse Daudet, parce que je sais qu'il y a des auditeurs partout grâce à TPS. Donc, ce matin, Orange, tentative d'incendie de la cathédrale. On a incendié une très belle bannière. La griffe réagit. Ce qui motive mon indignation aujourd'hui aussi, par exemple, c'est à Toulouse. Hier, je suis venu par l'avion tout à l'heure. Hier à Toulouse, dans un autobus de la ville, une jeune fille a été violée, hein, sans que personne ne réagisse. Et quelquefois, vous voyez, je me dis, mais quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple qui laisse faire de telles choses? Parce que là, le gars était seul. Ah, je sais ce que va dire Valran Saint-Luc.
Il faudrait être armé.
Il va dire, ça n'est pas si facile. Mais enfin, ces affaires-là se multiplient. Mmh. Et la Griffe a un rôle, non seulement avec ses avocats devant les tribunaux, mais c'est un rôle d'alerte de notre peuple, de dire, mais quelle est cette barbarie déferlante? Et est-il possible que cela continue? Vous voyez, c'est encore la dépêche du midi, passée à tabac par 6 individus, hier, devant Saint-Cernin, donc ils n'ont pas bougé. La foule est là, elle n'ose plus protester, elle n'ose plus protester. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ils savent qu'il y a quelquefois, trop souvent, des magistrats pour condamner ceux qui se défendent. Et voilà pourquoi, je le dis aussi, il y a une collaboration de la barbarie qui est peut-être pire que la barbarie elle-même. Alors, la Griffe, c'est un syndicat de défense des Français. Et c'est pour cela que nous sommes unis sur un créneau très, 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 très simple, très strict, défendre devant les tribunaux, face aux actes de racisme anti-français et anti-chrétien, face aux actes de barbarie. Et voilà pourquoi. On connaît mes engagements, on connaît mes idées. Je remercie présent de les accueillir souvent, Radio Courtoisie aussi. Mais à la Griffe, je suis le président de gens qui peuvent avoir des sensibilités différentes. Par exemple, on sait très bien que dans les querelles qui jadis agitèrent le Front National, je fus un défenseur actif en première ligne de Jean-Marie Le Pen, parce que je n'appréciais pas, je n'étais pas d'accord avec M. Bruno Maigret. Mais pour autant, jamais à la Griffe, je n'ai demandé aux maigrettistes de s'en aller. Ils étaient mes amis, nous nous sommes respectés. Alors, j'y tiens essentiellement, je tiens à le faire savoir, la Griffe n'est la courroie de transmission d'aucun parti politique. Il y a la Griffe un vice-président dont on sait par ailleurs qu'il est l'avocat, qu'il est même un élu du Front National, Valran Saint-Just. Il y a un autre très grand avocat, qui pourrait être là à l'occasion, c'est Jacques Trémollet de Villers. Chacun sait ses convictions royalistes. Il y a
Georges-Paul Wagner.
Il y a Georges-Paul Wagner, qui est notre maître, qui est vraiment, je le salue ici, je lui dois tant, qui est royaliste aussi. Il y a des gens du Mouvement pour la France, de Philippe de Villiers, qui, il y a aussi, je peux le dire, des gens de l'UMP, et oui, qui commencent à en avoir ras-le-bol. Il serait temps, d'ailleurs, quand ils voient certains, ce qui arrive aux députés Vanest, dont on parlera tout à l'heure.
Alors,
à la Griffe, cela est très, très important. Donc, il y a des gens tous ceux qui veulent défendre l'identité française et chrétienne de la France. Et puis aussi des représentants de groupes divers que je ne peux pas citer plus longuement ce soir.
Alors, vous avez parlé de cette française qui avait été condamnée parce qu'elle recherchait un locataire français et catholique. Nous avons une affaire absolument extraordinaire d'un charcutier à Compiègne qui a été condamné pour ne pas avoir voulu embaucher un musulman qui est poursuivi.
Mais Jeanne, c'est encore plus particulier que ça, si vous me le permettez.
Oui, Valran Saint-Just, racontez-nous tout ça.
Et ce monsieur qui est charcutier à Margny-les-Compiègne, enfin, c'est vraiment la France, c'est la France, et il cherchait un commis. Et il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui se présente comme envoyé par la NPE. Et puis, il n'a pas pris ce monsieur. Et ce monsieur a été se plaindre, agité par des autres d'association procureur de la République en disant il ne m'a pas pris parce que je suis musulman. Et en réalité, ce charcutier n'a jamais rien dit de tel. Il s'est toujours défendu d'avoir dit quoi que ce soit sur la religion de celui qui veut venir travailler chez lui, et en tout cas pas sur l'islam. Et il est quand même tout à fait extraordinaire qu'on envoie un musulman travailler dans une charcuterie.
C'est paradoxal, provocation. Oui.
Alors, on interdit les soupes aux cochons à Strasbourg ou à Nice, mais on trouve tout à fait normal qu'un musulman vienne se présenter pour travailler dans une charcuterie où finalement on ne vend que du porc. Mais malgré ces dénégations et malgré son évidente bonne foi, ce charcutier de Margny-les-Compiègne a été condamné sévèrement par le tribunal de Senlis, parce que Jeanne, on a vu ce visage que présente la justice française dans ces affaires d'Outreau et dans d'autres affaires, mais il y a un autre visage qui nous occupe depuis longtemps, qui est tout aussi détestable, c'est la politisation absolument incroyable de grand nombre de ces magistrats. Ça n'est plus supportable. Comme on ne supporte plus ces insuffisances de ces juges d'instruction avec des conséquences conséquences absolument incroyables. Nous ne devons plus supporter un instant cette politisation et ces juges qui condamnent parce que vous êtes supposé être à droite alors que eux sont à gauche, et il faut des réactions tout à fait importantes. Alors, vous me dites si je suis
alors,
un peu
non,
trop long,
mais dites-moi,
parce que j'avais encore deux points à aborder.
Oui, dites-moi, maître de Saint-Just, est-ce que la Griffe va pouvoir intervenir dans cette affaire?
Oui, ce monsieur a interjeté appel devant la cour d'appel d'Amiens. Nous espérons bien qu'il sera innocenté et la Griffe sera bien évidemment derrière lui.
Vous avez encore une affaire en cours dans l'affaire du train d'enfer du Nice-Lyon.
Oui, parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte quand même. Nous sommes que le 25 ou 26 janvier, et le 1er janvier avait lieu dans ce train Nice-Lyon des incidents qui ont extrêmement frappé la population française. D'ailleurs, survenant après les émeutes de banlieue du mois de novembre, je pense que ces événements successifs font un peu bouger le navire, et les Français ouvrent les yeux et viennent peut-être vers ceux qui finalement les ont toujours défendus. Nous avons acquis peu à peu la preuve, et quelquefois le diable porte Pierre, c'est notamment dans un article du Monde que les manifestations de racisme anti-blanc avaient été extrêmement nombreuses lors de ces agressions ignobles dans ce train Nice-Lyon. Et la Griffe a donc demandé à un avocat du barreau de Toulon, maître Sylvain Navio, que nous connaissons bien, d'intervenir auprès du juge d'instruction de Draguignan, qui certainement fait très grande diligence dans cette affaire, nous n'en doutons pas, pour retrouver tous les agresseurs, et pour lui demander de se saisir officiellement de ces agressions, de ces injures, de ces insultes commises et faites parce que les victimes étaient françaises, en tout cas étaient blanches. C'est le journal Le Monde qui le dit. Alors on va le croire.
Eh bien, c'est une affaire tout à fait intéressante pour la Griffe et à suivre. On peut adhérer à la Griffe au 70 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, et 75005 Paris. Et lorsqu'on est adhérent de la Griffe, on reçoit une lettre où l'on est tenu au courant justement de toutes ces affaires en justice qui font quand même avancer notre cause, il faut bien le dire. Y en a-t-il encore une dont vous souhaitez parler, maître de Saint-Just?
Oui, c'est pas tout à fait la Griffe, mais vous savez, c'est aussi le mouvement et les mouvements que Bernard Anthony a initié depuis pas mal d'années. C'est proche de la Griffe. Vous vous souvenez de ce drame horrible de la petite Jeanne-Marie Kegelin en juin 2004 à Strasbourg, et de deux autres, une autre petite fille et une femme, et de la réaction notamment de Bernard qui a créé Chrétienté, Solidarité, Justice. Et nous avons toujours dit finalement que les malheureux qui auraient commis ce crime, parce qu'il y a la présomption d'innocence, finalement il y avait encore plus responsables qu'eux, c'était les hommes politiques. Alors il y a un exemple absolument topique, non pas seulement des hommes politiques, mais des magistrats français, et notamment des magistrats du Conseil d'État français. En 1961 est paru un roman de Monsieur Genka qui s'appelle L'Épi-Monstre. Voilà comment Marcel Jouhandeau, parce que Marcel Jouhandeau avait préfacé ce roman, écrivait dans cette préface. On y découvre des nappes d'abjection, des fumées de luxure propres à couper l'appétit au coprophage. L'inceste y est le pain quotidien des familles. Et en 62, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait interdit aux mineurs et à l'exposition publique cet ouvrage. C'était tout à fait normal. En 2004, l'auteur, M. Genka, qui vit toujours, s'est adressé au ministre de l'Intérieur actuel en disant « Levez l'interdiction ». Ce ministre, dont nous tairons le nom, puisqu'on en dirait du bien, elle n'a pas voulu. Eh bien, M. Genka s'est adressé au Conseil d'État français et a dit « Faut annuler cette décision de refus de ce dernier ministre de l'Intérieur ». Et vous avez une commissaire du gouvernement, dont on va donner le nom, qui s'appelle Marie-Hélène Midjaville, qui a dit « Mais les temps, les mœurs ont changé depuis 1961, messieurs, que ce livre est interdit. Les mœurs ont changé et cela ne peut que vous conduire à estimer que le maintien des interdictions de 1962 n'est pas justifié ». Et le Conseil d'État a bien entendu lever toutes les interdictions, et ce livre dont l'auteur doit avoir la responsabilité, les hommes politiques et ces magistrats peut paraître, et ils ont directement, je le dis, une responsabilité dans ce qui est arrivé notamment à Jeanne-Marie Kegelin. Et je donnerai pour terminer le nom de ces trois magistrats du Conseil d'État qui ont jugé, car il faut qu'on le sache. C'est Monsieur Vigouroux, Monsieur Larrivée et le président, le dernier mais non le moindre, Monsieur de la Vulpillière, qui est par ailleurs, parce que qu'on peut l'être aussi, président UMP du Conseil Général de l'Ain. Voilà l'œuvre de ces messieurs. Faudra s'en souvenir un jour, et je m'en souviendrai à Strasbourg quand j'irai plaider pour la famille Quégelin.
Alors pour la famille Quégelin, je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie que ce soir sur KTO à 20h50, une émission d'une heure lui est consacrée. Ses parents et une de ses sœurs seront interrogées par Richard Boutry. Cette émission sera répétée au cours de la semaine et est disponible sur Internet, sur le site de KTO. C'est important de le dire. Les personnes qui ont été émues par cette affaire, par les affaires de peine de mort qui ne sont pas appliquées, si je puis dire, par toutes ces abominations et puis par le racisme anti-français, peuvent prendre contact avec la Griffe, dont je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 01 40 46 96 31.
Voilà, alors si vous permettez, Jeanne, encore un mot pour ce qui est de la Griffe. Je serai mardi à Carcassonne. Vous voyez ce qui se passe à Carcassonne. Une jeune femme a été violée il y a plusieurs années. Son agresseur est en prison. Mais les amis de l'agresseur ont incendié la voiture de la jeune femme, ont tenté d'incendier la maison, l'ont à nouveau agressée. Alors, elle porte plainte, c'est l'enfer quotidien d'une femme violée puis harcelée chez elle, c'est le titre du journal L'Indépendant.
De Carcassonne.
De Carcassonne. Eh bien, cette jeune femme-là va trouver les policiers et on lui répond, mais non, on est au courant, on ne peut plus rien faire, adressez-vous ailleurs. Enfin, voilà une jeune femme qui vit aujourd'hui dans un total désespoir. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourra faire, parce que nous n'avons pas forcément les armes judiciaires pour, et puis si la police ne fait rien. Mais du moins, nous irons, et j'ai mobilisé la Griffe de l'Aude pour essayer d'entourer cette jeune femme.
Bernard, je connais des endroits de la banlieue parisienne où des milices privées, récemment, et notamment depuis novembre, se sont véritablement créé sans que les pouvoirs publics n'osent rien dire. Parce que finalement, tout ce que nous disons, on va pas peut-être regarder tout ça par le petit bout de la lorgnette, mais c'est la vérité et c'est l'état de notre pays en 2005 et 2006. Il faut que tout le monde le sache.
Nous avons quelques questions. Nous ne pouvons pas répondre à tout. C'est un flot. Dans le Coran, il est écrit qu'il faut tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Non, ça n'est pas écrit comme ça. Ça mérite beaucoup de nuances. Qu'on lise mon livre. Et En revanche, effectivement, dans le Coran, on peut trouver, et surtout dans les hadiths, la dialectique du jihad et de la dhimmitude. Mais ça n'est pas aussi sommaire. Ça, il y aurait là des débats d'interprétation.
Il peut y avoir deux traductions. Hein.
Oui, le djihad. Ne rentrons pas là-dedans. Non, il n'y en a qu'une, c'est la guerre sainte, pardonne-moi de te le dire, et seuls les soufistes ont dit que c'était une guerre intérieure. Mais
ou l'expansion.
Prend, oui, c'est. Enfin, bon. Mais au sens strict, c'est la guerre sainte. Je n'ai jamais entendu dire à quelqu'un pourquoi ne pas appliquer la loi des sceaux par rapport au Coran. Très simplement, je répondrai que nous ne sommes pas pour appliquer la loi des sceaux. Nous voulons la dissolution de la loi des sceaux. Donc, ça ne nous interdirait pas du tout de continuer dans le cadre de la loi Plévin de 72, de continuer à lutter contre le racisme anti-français et anti-chrétien. Mais nous ne sommes pas du tout, nous, pour appliquer un système de coercition. Alors on dit qu'il faudrait faire interdire parce qu'ils sont contre l'homosexualité, le Coran, la Bible et la Torah. Non, nous parlerons tout à l'heure, oui, Jeanne, de l'homosexualité. Quand vous donnez les lieux où l'on peut trouver les livres que vous citez, pourquoi n'indiquez-vous jamais les éditions de Chiré ou la librairie du Caen? Non, on ne donne pas les lieux. Il faudrait en donner 50. Mais dans Reconquête, on peut lire à peu près dans chaque numéro tout le bien que nous pensons des éditions de Chiré amplement citées. De même que dans Présent, quant aux librairies, Richard Haddad, Dieu merci, nous avons du Caen. Mais là, pour ce qui est de mon livre, on le vend naturellement de préférence au Centre Charlier pour une raison très simple, c'est que ça aide un peu le Centre Charlier à vivre.
On n'a même pas cité l'adresse de ma maison d'édition.
Et donc, on n'a même pas cité l'adresse de Godefroy de Bouillon. Voyez-vous, je crois qu'il y a quelquefois des gens un peu... comment dire, je ne qualifierais pas. Voilà, Bernard Anthony me paraît un parfait américano-sioniste. Ça, c'est la meilleure. ça fait rire beaucoup, certainement, ceux qui n'ont pas admis que j'ai été tout à fait hostile à l'intervention américaine en Irak.
J'y étais fort.
Donc, quant à sioniste, ça n'est pas non plus ma tasse de thé. Cela dit, ce que j'observe tout de même en Israël avec inquiétude, c'est que dans la ville de Bethléem, qui fut autrefois une ville à majorité chrétienne, On vient de la majorité musulmane a décidé désormais d'imposer un impôt particulier pour les chrétiens. Alors voyez, je suis pas américano-sioniste, mais je défends les plus démunis en terre d'Orient que qui eux ne se défendent pas beaucoup, c'est-à-dire les chrétiens.
Mais on a appris avec tristesse que Sharon Stone était à l'hôpital aussi.
Ah, vous nous apprenez une grande nouvelle, mais je crois qu'on va passer très rapidement. Nous avons des choses plus intéressantes.
Sur ça quand même, parce que ça fait des années que dès qu'on défend l'identité chrétienne de la France, dès qu'on essaie d'analyser et de prévoir quelque chose contre le Coran et l'islam, on est automatiquement américano-sioniste. Il faut arrêter avec cette espèce d'adjectif qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, on est pro-américano-sioniste? En gros, on aurait le choix qu'entre l'américano-sionisme, entre guillemets, et l'islam. C'est, voilà, si on n'est pas pour l'islam, on est forcément... Enfin, ça ne veut plus rien dire, ces termes.
Voilà la sage intervention de Richard Haddad, des éditions Godefroy de Bouillon. Alors,
Victoria.
Quelques messages. Alors, un auditeur, on a parlé beaucoup de l'affaire Doutreau, mais on a escamoté le nom de la personne qui avait fait toutes les dénonciations. Ne serait-ce pas dû au fait qu'elle est musulmane?
Je ne sais pas. Je ne connais pas...
Une auditrice, je vous rappelle qu'au 12e, 13e, 14e et 15e siècle, le latin était la langue des élites en Europe. C'est cela qui a créé une culture commune. Et le féodalisme a inculqué les notions d'honneur et de fidélité qui ont survécu jusqu'à la Révolution et même au-delà, à mon avis. Pourquoi, n'est-ce pas, monsieur Bayrou, qui a révoqué le professeur Jacques Sereau, décédé l'an passé?
C'était un de nos amis. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Sereau est un ami, pas Bayrou.
Oui, ça commence à dater, mais effectivement, l'époque correspond à peu près. Mais je crois que les ministres se changent, se suivent et ne changent pas.
Réduire le christianisme à la morale, c'est l'appauvrir terriblement.
Mais nous n'avons jamais réduit le christianisme à la morale, j'ai même dit le contraire. J'ai dit tout simplement qu'il y avait Dieu, la charité, l'amour, mais il faut bien aussi un tour de morale, et tantôt Christ, il est venu dire « Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir ». Et donc, ça serait le réduire très certainement en effet, mais éliminer la morale, ça serait l'amputer aussi.
Dans la nouvelle revue d'histoire, nous dit cette auditrice, il y a un article de M. René Marchand sur l'islam qui est extraordinaire.
C'est excellent. René Marchand est un de nos amis et c'est un maître sur la question.
Et un auditeur, selon moi, Bainville a été critiqué à juste titre par la nouvelle revue d'histoire.
Ça, c'est un autre débat. Passons.
Le Coran dit quand même, monsieur Anthony, il faut tuer partout les infidèles, et si vous tuez, c'est aussi Dieu qui leur a fait.
Oui, 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 mais ça, c'est tout à fait vrai, mais il faudrait... Oui, oui, mais bien sûr, tuer les infidèles partout où vous les trouverez, c'est dans la sourate la plus combative, c'est la sourate 9, nous le savons fort bien.
Et puis, on vous demande de redonner les coordonnées de votre livre, donc je les donne. Bernard Anthony, l'islam sans complaisance, mythe et réalité, la vie de Mahomet, le Coran, l'islam, l'Ouma, la charia, le djihad. C'est aux éditions Godefroy de Bouillon et ça vaut 25 €. Mais si on demande qu'on l'expédie, il faut combien de frais de port?
4 € de plus.
D'accord.
C'est pour cela que je signe volontiers les livres quand je suis à Paris, et notamment les 8 février après-midi et 9 février, ça sera la date de ma prochaine venue.
C'est fini.
Bien. Eh bien, écoutez, je crois que maintenant, Jeanne Smith a beaucoup dirigé les débats, beaucoup interrogé. À moi de vous interroger, Jeanne.
C'est l'Inquisition, maintenant.
Non, ça ne sera pas. Mais je crois que, outre votre rôle de directrice de présent, vous êtes justement particulièrement axée sur les questions morales. Et nous ne sommes pas de ceux qui évacuent la morale, parce que quand il n'y a plus de morale, les mœurs, on va le voir, se dévaluent très vite. Alors, je crois que vous avez été particulièrement choqué par un guide d'éducation sexuelle qui est distribué aujourd'hui, dites-nous, dans l'éducation nationale. Alors, Jeanne, on va vous traiter de ringarde.
Ça n'est pas un problème. Et d'ailleurs, je ne me situe pas complètement sur un plan moral. Ce qui me gêne dans toutes ces histoires, et les histoires de poursuites pour homophobie, dont nous allons parler un peu plus tard, c'est que les affaires qui sont strictement privées, prennent maintenant une dimension politique, et ce sont ceux qui se, veulent se comporter de façon morale qui sont ridiculisés. Et j'ai donc parlé de ce guide de l'éducation sexuelle qui vient de sortir pour les éducateurs sexuels. Oui, il y en a dans notre France de 2006. Ce guide est paru il y a quelques semaines. Il s'adresse à tous ceux qui dispensent des cours au collège et au lycée. Et c'est extraordinaire, car il ne contient pas exactement le programme qui doit être enseigné en cette matière, mais la manière de le faire. Et la manière de le faire, nous explique ce guide, c'est d'avoir recours à des techniques de dynamique de groupe, c'est-à-dire qu'on va encourager les élèves à s'interroger sur les stéréotypes, par exemple. Il y a des stéréotypes qui sont intolérables, comme celle-ci, une lesbienne est un garçon manqué, ou un homo est une fille manquée, ou tout le monde naît hétérosexuel. Eh bien, nos chères têtes blondes et brunes et de toutes les couleurs, et notamment les musulmans qui ne sont pas tellement contents, en tout cas les parents, vont se retrouver en classe de quatrième à discuter de ces phrases sous la conduite de l'éducateur, qui sera chargé de les faire réfléchir, de leur faire comprendre qu'il y a aujourd'hui des stéréotypes en cours dont il faut se libérer au nom du respect de l'orientation sexuelle. Ça imprègne tout ce guide. Il y a d'autres facteurs qui seront débattus, qui feront l'objet d'accouchements d'idées, si vous voulez, sous la direction extrêmement pointue de ces éducateurs. Il s'agira même de traquer ceux des élèves qui, par exemple sur la question de la contraception ou sur celle de l'homosexualité, divergent par rapport au discours officiel. Donc je crois que ça, c'est une chose très très importante. Nous en avons parlé il y a quelques semaines dans Présent, à une grande page. Vous pouvez la demander à Présent, 5 rue d'Amboise, 75 002 Paris. Je vous assure que c'est extrêmement gratiné, et cela m'inquiète beaucoup, parce qu'il y a désormais un discours officiel qui veut que l'on ne respecte plus les hommes comme hommes et les femmes comme femmes, mais qui veut que nous soyons tous protégés par rapport à notre désir, notre genre, notre qualité de hétéro, homo, bi ou transgenre ou lesbienne, tout ce que vous voulez. C'est notre désir qui va nous caractériser et qui pourra changer au gré de nos envies. Et là, vous n'aurez plus le droit de rien dire.
Oui, est-ce que vous ne pensez pas, Jeanne, que nous sommes là dans une nouvelle réduction de l'homme? On avait la réduction marxiste à la classe, on était un bourgeois ou un prolétaire, hein, il y avait la réduction nazie ou raciste, on était jaune, blanc ou noir, et là, nous avons une nouvelle réduction au sexe, en quelque sorte, mais non plus donc à la réalité homme-femme, mais à des nouvelles catégories qui ont été finalement inventées il y a peu.
Créées de toutes pièces par des féministes extrêmes américaines, et je crois que ce discours est en train d'imprégner complètement nos lois et l'éducation nationale, et je crois que c'est à ce point que bientôt nous ne pourrons plus rien dire. Et l'information quand même très importante d'hier, ça a été la condamnation d'un député UMP, courageux en l'occurrence, très courageux, Christian Van Est, député du Nord, qui s'est vu infliger 3000 euros d'amende, plus 2000 euros de dommages-intérêts à verser à diverses associations, dont ACT UP, et vous savez, les provocateurs de Notre-Dame. Et puis, également 3 insertions dans la presse, ça n'est pas gratuit. Et bien, pourquoi a-t-il été condamné? Parce que il a osé dire la chose suivante, et alors je vous rapporte les propos tels que l'AFP les a encore rapportés ce matin. Il avait osé dire, Christian Van Est, que selon lui, l'homosexualité est inférieure à l'hétérosexualité, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas l'étendre de façon générale sous peine de condamner l'humanité à mort. C'est une évidence, le couple homosexuel n'a pas d'enfant, donc si tout le monde était homosexuel, et oui, il souhaiterait. Hein. Voilà. Donc il avait dit également que l'infériorité morale et sociale du comportement homosexuel par rapport au comportement hétérosexuel qui conduit au mariage et à la procréation est une est une réalité. Eh bien, cela, c'est désormais un propos interdit. Et je pense même que lorsque le pape Benoît XVI, qui vient de publier son encyclique Deus Caritas Est, qui parle de l'amour, eh bien, lorsqu'il parle de l'amour et dit qu'à l'heure de la promotion morale et juridique de l'homosexualité, ça, ce ne sont pas ses propos, c'est les miens, lorsque maintenant il honore le mariage monogamique comme la seule forme véritablement acceptable de l'amour sexuel, eh bien là, il tombe sous le coup de la loi anti-homophobe du 30 décembre 2004. Et c'est si vrai qu'il a été nommé personnalité anti-gay de l'année 2005 par un groupe de lesbiennes, bi, gay et trans américains.
Oui, là, je crois qu'il faut donc citer les paroles, les propos de Christian Van Est. Il le mérite, il est persécuté. Nous sommes donc naturellement à ses côtés, parce qu'enfin, il n'a fait qu'émettre, comme il le dit, donc des opinions. Et il a réagi à sa condamnation en disant ceci: cette décision des juges lillois est d'une gravité exceptionnelle, car elle remet en cause la démocratie dans la mesure où elle interdit le débat d'opinion sur un sujet de société. Et c'est là que d'ailleurs Van Est rejoint ces intellectuels de gauche qui ont eu raison après les excellents propos, on va me traiter d'américano-sioniste, de M. Finkielkraut, pourtant nous n'avons pas toujours été d'accord, mais qui s'est enfin aperçu de ce carcan des lois scélérates que nous avons souvent dénoncé ici, parce qu'enfin il est tout de même hallucinant que Van Est ne puisse pas émettre des considérations, alors que sur la question de l'homosexualité, de l'homoparentalité, de l'homopholie dont on nous rebat partout les oreilles aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire ici mon indignation. J'en ai beaucoup, mais nous en avons beaucoup, les auditeurs radio Courtoisie aussi, sur la façon dont on prétend combattre le sida aujourd'hui. Nous avons fait, à la Griffe, condamner à Toulouse l'association dite Sainte-Capote, qui donc organisait des mascarades avec des déguisements en religieuses. C'est l'éternel mascarade donc grotesque, ça remonte aux sans-culottes et aux bonnets phrygiens de la Révolution française. Mais ce que l'on distribue aujourd'hui un peu partout, c'est finalement aussi une incitation. Alors, vous voyez, je ne suis pas un moraliste. J'ai animé en mon temps des chorales paillardes à la faculté des lettres de Toulouse. Je portais la faluche. Mais enfin, dans quel univers tombons-nous quand je découvre ces cartes éditées par le ministère de la Santé, hein, les photos de M. Olivier Foulon, où l'on montre, par exemple, voilà, alors ce sont des cartes de promotion du préservatif qu'il ne faut jamais oublier. Alors pardonnez-moi, auditeur de Radio Courtoisie, mais enfin voilà, on nous montre sur une de ces cartes, on diffuse ça partout, dans les écoles, deux jeunes gens qui ne se connaissent pas, ils font connaissance dans un club de sport. L'un d'eux dit « t'as plutôt une belle gueule, toi », et immédiatement, les voilà sur le pieu. Et là, l'un dit, excusez-moi, je cite « merde, j'ai plus de capote, je me retirerai, ok ». C'est ça que distribue le ministère de la Santé de monsieur, il faut bien le dire, donc d'un gouvernement de droite. Et l'un dit « il est jeune, je suis sûr qu'il a rien à craindre hein, ». Qu'il n'y a rien à craindre. Bon, et ensuite, il se demande « faudrait que j'arrête de déconner, moi. » Voilà ce qu'on distribue. Alors ça, vous savez, dans la France de Ronsard, dans la France de Voltaire, oui, et pourquoi pas, dans la France de nos poètes, dans la France de nos... dans la France même de Jaurès. Tout à l'heure, je parlais, avant de venir à cette émission, des bons et des mauvais côtés de Jaurès. Mais c'était un homme, sur ces plans-là, d'une extrême délicatesse. Voilà ce qu'on distribue aujourd'hui. C'est répugnant. Franchement, je dois dire que ça ne mérite d'être traité que par la douaille paillarde, un Rabelais, bon, aurait traité cela, parce que ça n'a plus rien à voir avec Rabelais, ça n'a plus rien à voir avec Ronsard, c'est de la perversion à l'état pur, et les pauvres gosses qui reçoivent cela, là, certains portent vis-à-vis d'eux des responsabilités très grandes, mais le chrétien que je suis, n'oublie pas aussi ce à quoi les pervertisseurs sont condamnés dans l'Évangile, mieux aurait valu pour eux, ceux qui scandalisent les petits-enfants, que l'on les précipitait au plus profond des abîmes avec une meule autour du cou. Ben là, je crois que l'Évangile dit ce que méritent les pourrisseurs d'une jeunesse qui, sous prétexte de combattre le sida, ne font que le propager.
Valrand Saint-Just, vous avez une,
oui,
une
si
remarque.
Si vous me permettez, il faut rappeler que ces cartes sont distribuées par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, qui est Monsieur Xavier Bertrand, politicien moyen de la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et plus particulièrement, parce qu'il faut dénoncer, hein, l'Institut national de prévention et d'éducation par la santé, que les photos, c'est Monsieur Olivier Foulon, et que tout l'aménagement des cartes postales, c'est fait par cette énorme entreprise de publicité qui est Euro RSCG. Voilà des personnes qui auront un jour à répondre de tout cela. Je voulais dire aussi que, en ce qui concerne la condamnation du député Van Est, je ne sais pas si vous avez vu, quand je vous ai parlé du livre de M. Genka, 1962-2006. Là, c'est une condamnation en 2006. Il faut rappeler que dans les années 65-66, Mgr Elchinger, l'évêque de Strasbourg, avait été poursuivi pour des propos identiques à ceux de M. Van Est, et il avait été acquitté avec les honneurs de la guerre par le tribunal de la Cour d'appel et même la Cour de cassation. C'était un arrêt très important, l'arrêt de Mgr Elchinger. Et je vous demande de regarder un peu comment est-ce qu'on est passé en 40 ans, finalement, de 1962-2006, en ce qui concerne l'état des mœurs. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans un pays, et je ne crois pas qu'on ait vécu, dans les années ou les siècles que nous connaissons, un tel renversement, une telle inversion des valeurs sur le plan des mœurs qu'en 40 ans dans notre pays. C'est tout à fait frappant.
Il y a eu un intense lobbying quand même.
Jeanne, notamment, le journal Présent du 20 janvier a mis en avant ce qu'a fait le Parlement européen avec un beau titre, Homophobie, le Parlement européen au secours de la persécution. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus.
Oui, il y a quelques jours, donc, avec une très forte majorité, une majorité impressionnante, c'est-à-dire 468 députés contre 149 et 41 abstentions, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission européenne et également à tous les États européens de renforcer leur lutte contre l'homophobie et de mettre en place toute une série de mesures afin que les droits des homosexuels, bi, gays et trans soient respectés, qu'ils puissent que leur mariage soit respecté. Par exemple, un couple en Espagne doit pouvoir voyager dans l'Union comme un couple marié. Il faut qu'ils bénéficient des mêmes droits, des mêmes assurances, des mêmes dispositions fiscales que les autres. Ils sont des hétéros comme les autres, j'aurais envie de dire. Et donc, ils ont réussi là un coup absolument extraordinaire qui s'explique sans doute partiellement par le fait que le plus grand intergroupe au Parlement européen est quand même l'intergroupe lesbien, bi, gay et trans. 120 députés de cette auguste assemblée. Oui, il existe. Il est extrêmement efficace, comme on le verra. Mais si j'ai parlé de tout ceci, et je crois que ça vaut la peine pour les auditeurs de Radio Courtoisie d'approfondir un petit peu cette question, parce qu'elle va, je crois, devenir extrêmement présente dans notre vie quotidienne. J'en parle notamment sur ce point. C'est que le Parlement européen a donc adopté une définition tout à fait intéressante de l'homophobie. Voilà comment le Parlement européen s'exprime. L'homophobie peut être définie comme un sentiment irrationnel de peur et d'aversion à l'égard de l'homosexualité et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, fondée sur des préjugés et comparable au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme et au sexisme. Donc, un sentiment irrationnel de peur et d'aversion, comme je peux avoir très peur des araignées, ou vous, Bernard, très peur de parler en public, ça s'appelle l'agoraphobie. Vous en êtes très évidemment atteint, n'est-ce pas? Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'une phobie, c'est par définition une maladie. Et une maladie, qu'en fait-on? On la soigne.
Dans les hôpitaux psychiatriques.
Et dans les hôpitaux psychiatriques. Vous m'ôtez les paroles de la bouche, maître de Saint-Just. Je crois qu'il arrivera un jour où l'homophobie sera considérée comme une déviation de l'esprit. Et c'est si vrai que aujourd'hui, lorsqu'on émet une réserve sur le mariage homosexuel ou sur l'équivalence annoncée des comportements homosexuels et des comportements qu'il n'est plus loisible de qualifier de normaux, mais qu'il faut qualifier d'hétérosexuels, eh bien, l'on est déjà homophobe.
Alors là, nous allons, je crois, vers ce totalitarisme qui avait été parfaitement annoncé par les grands écrivains anglo-saxons, Aldous Huxley, George Orwell. Et il ne faut pas oublier que le communisme, après sa période brutale, le communisme n'est d'ailleurs pas mort, c'est un virus mutant, se dirigeait vers cela. Alors, il y a eu le goulag, et je voudrais dire un mot de ce qui se passe en ce moment même, de très positif, probablement, au Conseil de l'Europe. C'est différent du Parlement européen, je vais y je veux dire. Mais enfin, à l'Union soviétique, après avoir suffisamment envoyé au goulag, on a mis dans les hôpitaux psychiatriques. Au lieu de dire que les opposants étaient des ennemis, on a préféré dire « ce sont des fous ». Donc c'était pour les discréditer beaucoup plus habile. Et voilà que ce que fait le nouveau totalitarisme consiste donc à prôner de la rééducation pour ceux qui seraient atteints de ces phobies. Donc désormais, quiconque pourra prendre position, dire que l'homoparentalité c'est quelque chose d'anormal et que la norme c'est que quand même un petit enfant soit élevé par un père et une mère... Bon, ça me semble la chose la plus évidente au monde, dans tous les siècles, dans toutes les races. Eh bien, enfin, donc là, désormais, on va envoyer en rééducation, et c'est donc le grand projet totalitaire qui continue. Ce soir, au Conseil de l'Europe, se passe en effet quelque chose de très important. Le débat sur le procès du communisme.
Alors ça, c'est très intéressant, Bernard Anthony, parce qu'on peut quand même dire, il faut le rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie, que vous avez été à l'origine du premier procès des crimes du communisme. C'était à Paris même. C'était un événement extrêmement important et qui vous a amené à parler avec beaucoup de victimes du communisme, et notamment avec le président Landsbergis, si je me souviens bien, qui vous avait promis de poursuivre cette affaire. Et aujourd'hui, elle est en débat, à l'heure où nous parlons, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Alors il faut peut-être dire, Jeanne, que le Conseil de l'Europe, ça n'est pas le Parlement européen, c'est l'institution la plus ancienne que nous n'avons jamais remise en cause, qui unit tous les pays européens, ceux qui sont dans l'actuelle Union européenne ou ceux qui n'y sont pas. Ça a été effectivement un de nos combats, un des combats de chrétienté solidarité, un des combats que j'ai essayé de mener au Parlement européen. Nous avons eu plusieurs moments. Nous en avons eu un de très émouvant. C'était le procès Boudarel. C'était le tortionnaire du camp 113 qui avait éliminé les prisonniers français donc capturés par le Viet Minh avec une proportion supérieure à celle donc d'Auschwitz. Ce procès Boudarel, nous avions voulu en faire un laboratoire de ce qu'aurait dû être le grand procès du communisme. C'est Valran de Saint-Just qui mena avec beaucoup de talent, de pertinence, les débats. Nous avions invité ce jour-là, effectivement, des gens de tout peuple, de tous horizons. Et nous en avons tiré un très beau film. Nous avons invité ce Vietnamien extraordinaire qui s'était emparé d'un hélicoptère fuyant un camp d'extermination. Nous avions invité donc ce Lituanien qui avait fait 37 ans de goulag. Et puis, je me suis rendu dans tous les pays où l'on pouvait m'entendre sur le sujet. Ça a été le cas notamment, effectivement, en Lituanie. J'étais en Lituanie avec Alain Sanders, du journal Présent, mon vieil ami. Nous étions là notre ami Michel Rudan. Et c'était le moment où l'armée rouge menait le siège du quartier général de Landsbergis. Nous avons trouvé ce président courageux. Il y avait eu là des gens qui étaient passés sous les chars. Nous avons pu nous exprimer à la télévision. Vision clandestine de Lituanie, c'est une partie de bras de fer. Le président Landsbergis m'avait promis, il m'avait dit, nous ferons le procès du communisme puisque le quart de la population de Lituanie était morte. Nous avons fait la même chose, Nous avons fait la même chose en Pologne. Nous avons fait la même chose dans bien des pays. Mais ce soir, je dois dire, parce qu'on est assez dit, ce qui n'allait pas. C'est quand même une grande nouvelle que celle de ce débat au Conseil de l'Europe. J'espère qu'il va être couronné de succès. Parce que, on parle aujourd'hui, au moins dans un quotidien, dans le Figaro, des 100 millions de morts du communisme, c'est le chiffre le plus bas. C'est-à-dire que les historiens qui ont fait le livre noir du communisme, qui viennent d'ailleurs de la gauche, il faut les saluer, dire la vérité, ce sont souvent des anciens communistes qui ont fait leur repentance, donc ont évalué au plus bas le chiffre donc, des victimes exterminées dans les famines, dans les camps, à 100 millions. Mais tout le monde aujourd'hui dit que C'est beaucoup plus. Alors, à l'instant même, donc, on me fait savoir, grâce à Olivier Filiras, du journal Présent, qui nous écoute et vient de nous téléphoner, il était en liaison avec le Conseil de l'Europe, que le Conseil de l'Europe a condamné les crimes des régimes communistes. C'est une grande victoire. Donc, c'est déjà une grande victoire. Il faudrait que suive ensuite, évidemment, le tribunal international. Non pas pour condamner tellement des individus, mais pour faire le bilan historique, pour donc des peines telles que celles que nous avions prononcées contre M. Boudarel, sous la présidence de Valérie Saint-Just, de condamnation à l'indignité nationale. Il y a des dizaines de milliers de bourreaux communistes qui sont en liberté aujourd'hui. Alors nous ne voulons pas les pendre, nous ne voulons pas forcément les mettre en prison, mais nous voulons au moins qu'on dise pour l'histoire, devant l'histoire, comment on a pu au Cambodge exterminer dans des conditions inouïes, atroces, plus du tiers de la population. Et nous pourrions continuer, nous pourrions tenir. Oui, Jeanne.
Oui, je crois que c'est vraiment un grand moment que nous vivons en réalité, parce que cette condamnation des crimes du communisme officiel à un niveau européen, dans une instance que nous ne récusons pas, puisqu'elle n'est pas une de ces instances fatalement supranationales, ici, des nationaux se sont exprimés, des nationaux ont obtenu la reconnaissance d'un des plus terribles génocide de l'histoire. Donc je suis extrêmement ému d'avoir pu annoncer, d'avoir entendu cette annonce en direct avec vous, Bernard Anthony, qui avez pu la faire, vous qui avez été l'initiateur de tout cela quelque part sur Radio Courtoisie.
Un auditeur demande de redonnez-nous le numéro du téléphone de la Griffe. Donc c'est 01 40 46 96 31.
Je dois dire, il me reste quelques minutes. Deux minutes. Je partagerai cette joie avec Serge de Bekech. Je me souviens de ce jour inattendu, merveilleux, où avec Alain Sanders et Serge de Bekech, organisant une manifestation devant l'ambassade d'Union soviétique, nous sommes reçus par le dernier ambassadeur d'Union soviétique, qui va nous recevoir dans le salon d'honneur, on ne savait plus où nous étions, pour lire un texte dans lequel il saluait à nous des combattants de la liberté. Il déchira sa carte du parti, il nous embrassa, la vodka a ensuite coulé à flot, c'était déjà une belle victoire, c'était en effet l'échec du putsch contre Eltsine à Moscou, et nous étions, nous, partisans évidemment de la réforme que menait Eltsine, même si celui-ci n'avait pas que des qualités, il avait la grande qualité d'être vraiment le tombeur du communisme. Voyez-vous, on m'informe encore que le journal Le Monde donc a publié cela. Le Conseil de l'Europe rejette les crimes communistes, c'est pas rejette, c'est condamne. Hein. Donc c'est effectivement pour nous quelque chose d'émouvant. Ça prouve que l'action militante intense, porte toujours ses fruits. De Landbergis en Lech-Walesa, de nos amis croates à nos amis hongrois, tout cela a cheminé. Et je dois dire que ce soir, je pense à la joie que notre ami Marek Jurek, militant de Chrétienté et Solidarité, doit éprouver, puisqu'il est devenu le président de la Diète polonaise. Voilà pourquoi on me comprendra aussi.
De l'Assemblée nationale.
Non, de la Diète. Oui, pardon. La Diète polonaise, c'est-à-dire l'Assemblée nationale polonaise. Alors, j'ai quelquefois des regrets de n'être plus au Parlement européen, de moins voyager, mais j'ai la joie de continuer à militer et de savoir que l'effort a payé.
Vous dites au revoir à vos auditeurs.
Et nous disons, chère Victoria, avec toute votre gentillesse, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci à Serge de Bekech de son accueil. Merci à Radio Courtoisie qui vraiment nous offre l'espace d'un véritable libre débat.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 25 janvier 2006 de 18 à 21h, en différé jeudi 26, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole par avance merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée de la nuit sur Radio Courtoisie. Dans un instant, à 21h, les soirées musicales. À minuit, le libre journal d'Alain Griotteret avec l'assistance de Michel. Invité Michel Caldagues, sénateur honoraire, ancien maire du 1er arrondissement de Paris. Alexandre Varro, avocat. Le drame de la désinformation dans de nombreux domaines. À 2h, l'émission que vous venez d'entendre, le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria. Invité Henri Joyeux, professeur à la faculté de médecine, Patrick Goffman, journaliste, écrivain, Jean-Paul Chériguès de Olmeta, journaliste, écrivain, président d'honneur du syndicat hippique national, Michel Delière, éditorialiste, Jean-Christophe Carme et Michel Toris, policiers, respectivement président et secrétaire général du syndicat Action Police CFTC. Jean-Claude Oudret, médecin, écrivain, Bernard Anthony, ancien député, président de l'association Chrétienté Solidarité et du Centre Charlier, Louis Chagnon, professeur de mathématiques, Richard Haddad, éditeur, écrivain, Valerand de Saint-Just, avocat, Jeanne Smith, journaliste. La prévention du cancer par une bonne alimentation, libre propos sur l'actualité, le retour à la terre, le bilan des émeutes en novembre dernier, les codes alimentaires, nouvelles de la réplique. À 6h, les livres du jour, Le bonheur d'écrire, émission créée par Sylvie Dervin et dirigée par Bernard Cabane, avec l'assistance de Lydie. Invité Thibaut de la Tocnay, ingénieur, conseiller régional de Provence, écrivain. Pascal Bernardin, ingénieur, écrivain. Réflexion sur les délocalisations. Je vous souhaite une très bonne soirée, restez bien avec nous dans moins d'une minute vos soirées musicales. écoutez Radio Courtoisie, il est 21h.
Radio Courtoisie.